Bonjour à tous, je suis Charlotte Couffrand et à travers ce podcast, je souhaite vous proposer un voyage. Et si vous partiez avec moi vers un été invincible? Et si nous assumions de faire de nos vies ce que nous voulons vraiment au fond de nous? Et si nous osions tout simplement être juillet? Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si les instants que vous viviez devaient être les plus beaux de votre vie? Je me suis souvent posé cette question et j'ai trouvé la plus belle définition des moments essentiels ornant mon chemin. Ce sont mes instants juillet. Être juillet, c'est savourer chaque minute, chaque seconde, chaque événement de nos vies. Être juillet, c'est oser, c'est avancer, c'est être libre. Être juillet, c'est profiter d'une musique, d'une lumière, d'un parfum. Être juillet, c'est aimer la pluie, l'orage, le soleil que l'on devine à l'horizon. Être juillet, c'est être passionné, c'est avoir le courage de faire, c'est vivre intensément. Être juillet, c'est créer ce podcast avec une envie intense de partager avec vous les pensées qui me construisent, les mots qui me bouleversent et vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors venez avec moi, je vous invite à un instant juillet. Cela fait un an que nous avons créé officiellement Juillet et pourtant, cette vision nous l'avions en tête depuis longtemps. Nous l'avons construite ensemble en le nourrissant de ce qui nous porte, mais aussi des rencontres que nous avons faites et des personnes qui nous ont inspirées tout au long de notre chemin. Et parmi elles, il y a Axelle Tessandier. Axelle est une entrepreneure et auteure incroyable, elle ne le sait pas, mais Axelle, je l'ai découverte au hasard de mes détours sur les réseaux sociaux où je suis tombée sur une vidéo de Switch Collective. Dans laquelle elle intervenait. Et à l'époque, je voulais changer de carrière professionnelle, mais je n'avais pas encore juillet totalement défini dans ma tête, et ce n'était pas tellement le bon moment pour moi. Ma carrière se déroulait parfaitement, on me faisait confiance dans mon travail. Il était donc plus raisonnable de rester là où j'étais, dans une carrière très stable et très opérationnelle. Et puis, en écoutant Axelle parler de ce qui la porte, de ce qu'elle a osé, des choix qu'elle a fait, de ses doutes aussi, et de son parcours extraordinaire derrière, je me suis dit que tout était possible. Alors Axelle fait partie des personnes qui m'ont inspirée dans la création de Juillet et je suis un peu émue et impressionnée de rencontrer Axelle aujourd'hui et de partager avec vous ce dernier instant juillet de notre première saison. Donc Axelle, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Merci.
Tellement beaucoup. Beau cette introduction, tellement touchant.
Merci d'avoir accepté.
Merci à toi.
D'être notre invitée et de nous accorder ce temps. Je vais te laisser te présenter et nous raconter ton parcours incroyable, mais j'ai tenu à expliquer voilà, ce qui nous lie à toi. Parce que je me sens super chanceuse de pouvoir te rencontrer et échanger avec toi parce qu'effectivement, tu m'as beaucoup inspirée. Et j'ai hâte que tu nous racontes comment, sur un chemin qui était normalement tout tracé aussi pour toi, eh bien, tu rencontres des gens qui ont peut-être tout changé dans ta vie et comment ça a pu tout bouleverser. Voilà.
Bah merci. Alors écoute, me présenter qui je suis, ça, c'est toujours très compliqué. Parce que je ne sais pas, en fait... J'ai l'impression que, tu sais, c'est comme quand tu dois donner ta carte de visite, quand tu rencontres quelqu'un, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. J'essaye de créer, voilà, au maximum, quand je peux, avec différents médiums. Je crois que l'écriture, quand même, fait partie de ma vie. J'ai toujours du mal à dire auteur ou que j'écris, ouais. Je sais pas. Mais je crée et d'arriver à ça, au fait que j'ai besoin de créer, d'inspirer des choses ou de partager ma vision des choses, que ce soit un livre, que ce soit... Quand je crée une plateforme comme Wonder avec Golden ouais. Moustache, par exemple, c'est toujours le fil rouge. Et voilà, et du coup, le parcours, il est un peu sinueux, quand même, je dirais, parce que moi, j'ai fait un bac économique, ES. Après, j'ai fait mes études, etc. Des trucs très, très sur les rails et tout. Et puis après, à 25 ans, j'ai complètement crashé. Quoi. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je me faisais virer de mes jobs. Enfin, voilà, je l'ai raconté mille fois, donc c'est pas passionnant pour toi et puis ça n'a pas grand intérêt. Mais tout ça pour dire que voilà, le parcours, il est surtout fait de questionnements, d'exploration et de rencontres, en fait, comme tu dis. Mais la seule chose que je me reconnais, c'est peut-être effectivement une certaine liberté, une certaine écoute de moi, en fait, de ne pas faire trop de compromis.
Ce qui n'est pas si simple.
Non, ce qui est le plus dur, en fait, peut-être. Enfin, le plus dur. Je pense que dans les vies qu'on nous construit, par rapport à l'éducation qu'on reçoit, par rapport à plein de choses, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi une pression qu'on se met seul et des attentes, en fait, soit qu'on projette sur nous, soit que nous, on a décidé qu'on... Enfin, on est aussi un peu construit sans qu'on nous mette des injonctions aussi, je crois. Mais du coup, voilà, moi, c'est plus de toujours, quand je sens que je suis pas au bon endroit ou quand je sens que je commence à m'ennuyer ou quand je sens que je fais des compromis avec moi... qui sont trop violents de partir ou de me renouveler ou de voilà, mais c'est jamais simple, hein. Moi, je suis quelqu'un qui avance avec beaucoup de peur, en réalité, tout le temps, en fait. La peur fait vraiment partie de ma vie, très souvent, mais j'essaye qu'elle définisse pas, qu'elle contrôle pas mes choix, en fait.
C'est drôle parce que c'est vraiment ça qui m'avait parlé quand j'ai écouté cette vidéo que j'ai découverte par hasard, enfin, sincèrement,
sur Switch. C'est drôle parce que c'est une vidéo de Switch, hein. On m'en parle énormément.
Mais vraiment parce
qu'elles sont très bonnes sur les réseaux.
Mais ouais. Mais parce que j'ai découvert par hasard. Et en fait, moi, j'ai une période de ma vie où justement, bah, j'avais une carrière très stable. Voilà, j'ai fait des grandes études. J'étais très douée à l'école. J'ai eu un métier intéressant. J'ai progressé comme il fallait. Et donc, j'arrivais à une trentaine d'années et tout allait très bien dans ma vie. Mais je me sentais pas à ma place. En tout cas, j'avais envie de faire autre chose. Mm-hmm. Mais forcément, alors je dis pas qu'on me mettait la pression, mais moi, je me projetais de me dire, mais attends, tu vas faire quoi? T'es bien payée. T'as une maison. T'as un super boulot, tout le monde valorise ce que tu fais, enfin ils te disent que t'es douée dans ton travail et ça te plaît pas, mais tu veux quoi de plus en fait?
Et tu voulais quoi moi-même de plus?
Mais je voulais faire un truc qui me plaît, juste un truc qui me ressemble, un truc où je me sentais pas enfermée dans quelque chose. Mmh. Et en fait, j'avais peur aussi. Et en t'écoutant, je me suis dit, mais elle a peur aussi. Mais elle l'a fait quand même. Et donc ça veut dire que je peux le faire aussi.
Moi j'ai vraiment peur tout le temps, je le dis beaucoup parce que moi je crois pas du tout au mythe de la Wonder Woman, etc. Je suis quelqu'un de très angoissé, de très peureux, mais je me reconnais de ne pas essayer que ça dicte les choses. Ouais. Je fais avec, en fait. Parfois, ça prend plus de temps, ou parfois, c'est plus difficile, mais je crois que c'est quand même important de le dire, quoi, que rien ne se fait, que ce n'est pas facile de changer de vie, de job. Et pour moi, ça ne l'est pas du tout, et je suis quelqu'un de... Je crois que si tu attends que la peur parte...
Ouais, tu fais rien.
Tu attends toute ta vie. En tout cas, pour moi, c'est pas possible. Enfin, je n'aurais jamais fait. Donc, je crois qu'il faut un peu enlever le mythe de la surconfiance en soi ou de « je me lance, j'ai super confiance » et tout. Tout ça, je pense que c'est des mythes qui sont hyper... C'est des nouvelles injonctions, en fait. C'est comme l'injonction, si t'es pas entrepreneur, si t'as pas fait ça à 30 ans, si t'as pas fait ça... Tout ça, c'est des nouvelles injonctions aussi que je trouve très difficiles. T'es pas obligé de devenir entrepreneur pour te trouver, t'es pas obligé. L'important, c'est de s'écouter et de savoir où est ta place. Et c'est toi qui la décides, en fait, quelque part. Et moi, je crois qu'il y a un truc très survalorisé de « fais-toi confiance et lance-toi », etc. Non, tu vas te lancer. Il y a des gens qui trouvent jamais la confiance en eux, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile. Par contre, il faut saisir de son courage. Je crois que c'est quelque chose d'un peu différent. Et en fait, je pense qu'il faut plus parler de ça que de comment se faire confiance, comment apprendre à avoir confiance en soi. Parce que la confiance en soi, finalement...
Si tu fais quelque chose qui te porte aussi, quelque chose où tu sens que c'est ta place quelque part...
C'est comme ça que tu gagnes confiance, sachant que t'es là où t'es, et puis c'est aussi dans l'action. Moi, je crois que... Tu sais, c'est comme que tu fais quelque chose qui te fait très... En fait, il y a quelque chose qui te fait très, 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 très peur. Tu recules pour le faire, et puis une fois que tu l'as fait, tu t'es dit « Ah, bah c'était ça, c'était ça ouais. ».
Je m'en suis fait une montagne, en fait, j'ai réussi à le faire.
Exactement, donc en fait, je pense aussi que c'est comme ça que tu acquiers un peu de confiance dans ce que tu fais, en disant, bon, attends, ça, je l'ai déjà fait, cette peur-là, je l'ai déjà surmontée, faire quelque chose qui m'angoisse, j'ai déjà fait. Enfin, tu vois, c'est pour plein de... ça concerne plein de choses, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est de changer de job à...
Et puis la vie, elle est faite aussi. Enfin, on fait mille trucs. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a mille occupations. Enfin, j'aime bien occuper beaucoup mon quotidien. Je fais plein de choses. Et justement, je reviens à cette vidéo parce que pour moi, vraiment, elle a été marquante dans ma vie. Parce qu'en fait,
j'ai Switch. Alors que tu dois remercier
Switch, ouais. Mais c'est vrai que je devrais remercier Switch, c'est vrai. Mais en fait, je faisais autre chose en même temps que d'écouter ça, parce que finalement, j'avais mon téléphone, mais en même temps, je faisais la cuisine, en même temps, je faisais d'autres trucs, etc. Et à un moment donné, un truc a attiré mon attention, c'est que tu parles du mariage de mon meilleur ami. Le film.
Mais oui, tout le monde se moque de moi, mais il est très...
Mais il est essentiel, ce film.
Tu l'avais vu, le film.
Mais je l'avais vu, le film. Et en fait, je me dis, mais ce film, tout le monde se moque de moi, parce que j'adore ce film. Je le trouve génial, ce film.
Non, mais attends, c'est un très bon film en termes de comédie romantique. Je tiens à dire que c'est pas du tout une daube. Hein.
Mais non,
dans la catégorie, c'est un très bon film.
Voilà.
Non, mais t'es pas obligé de citer Citizen Kane, Hôtel du Nord, pour avoir l'air d'être un cinéphile.
Et je me dis, cette nana, elle a l'air cultivée, elle a l'air brillante. Et elle cite une comédie que moi j'aime bien et que tout le monde, mon père en premier, il écoutera pas ce podcast, donc je peux le dire, il se moque de moi parce qu'il trouve que c'est en dessous. Enfin voilà, c'est pas vrai. Et tu parles de cette scène du pont, qui est la scène de transition du film. On est d'accord que dans le film, il y a un avant cette scène sous le pont et un après cette scène
sous le
pont.
Pour moi, dans cette scène du film, bon, pour les gens qui n'ont pas vu le film, d'abord, voyez-le parce que c'est un très bon feel-good movie. Vous allez vous sentir très bien après le regarder.
Il faut le voir.
Une comédie romantique qui réussit parce que c'est pas la fin qu'on attend d'une comédie romantique. Ils ont pas été dans la facilité. Et en fait, c'est sur cette scène du pont, tu comprends deux choses. un, tu comprends comment ça va se finir.
Oui.
Tu comprends. Et deux, ça parle d'un truc qui pour moi est très important, c'est de saisir
le moment. L'instant, exactement.
Et en fait, tu comprends que leur moment, il est passé.
C'est ça. C'est terminé. Et que du coup, le film, après, c'est juste en avant d'un truc que de toute façon, tu sais comment ça va se finir parce que tu sais qu'il faut que ça se finisse comme ça. Et du coup, juste la personne, la fin du film, c'est le temps d'accepter, en fait, une situation
oui, elle
qu'elle n'a pas
saisie. Et en fait, surtout, il faut qu'elle accepte que. Pour avoir la vie qui est pour toi, il faut que tu renonces à la vie que tu croyais être pour
c'est
toi.
C'est ça. Ouais.
Et en fait, je pense qu'ils n'ont rien à faire ensemble, mais qu'elle a du mal à accepter l'idée.
Ouais,
donc, en fait,
ça.
Tu sais, c'est comme l'idée que tu te faisais de la vie qui devait être la tienne.
Exactement.
Et en fait, il faut lâcher cette idée-là pour aller vers la vie qui est vraiment celle qui te correspond. Et en fait, elle ne le sait pas encore. Elle se rencontre au mariage, en fait, je pense. Bon, on est en train de totalement divulgâcher le film. Mais bon, honnêtement, c'est un classique. Beaucoup de gens l'ont vu quand même. Oui, j'ose le mot classique.
Je pense que beaucoup de gens. J'espère que beaucoup de gens.
Et en fait, du coup, je pense qu'il y a ce truc de en fait, lâcher prise avec une idée. Moi, je trouve que c'est très dur de lâcher prise. Pour ma personnalité, c'est beaucoup plus facile de tenir comme ça, d'être en contrôle de tout, que de faire OK, je lâche, je laisse faire. Et il se passe ce qui se passe, ou il faut que je lâche une idée de quelque chose, ou il faut que je lâche. C'est très difficile, en fait, pour les gens. Et donc, il y a cette idée-là qu'elle s'était faite, et il y a aussi l'idée de saisir les moments, qui est un peu une obsession chez moi. Bon, sans se coller la pression, je pense que quand il y a un moment de vie où tu sens que si tu acceptes de prendre le risque, ta vie, elle part dans une direction plutôt qu'une autre, c'est là où, pour moi, tu passes à côté d'un destin ou pas. Bon, c'est un peu des mots grandiloquents et un peu flippants, mais moi, je le vis comme ça. Je ne sais pas si c'est une très bonne solution. Mais moi, j'ai une idée de ne pas passer à côté de sa destinée, quoi, de quelque chose comme ça. Et en fait, pour moi, passer à côté de sa destinée, ça ne veut pas dire... c'est pas forcément faire des trucs complètement fous. C'est être sûr de ne pas passer à côté de soi, en fait. C'est aussi c'est simple que ça. Et du coup, moi, je crois que ça implique... de ne pas se rater, en fait. Pour moi, pas rater sa vie, c'est pas se rater soi, de ne pas rater le rendez-vous, la rencontre avec soi-même. Donc ça veut dire parfois prendre un peu des risques et saisir le moment ou l'instant où tu sais que même si tu es complètement flippé, tu sens, tu le sais dans tes tripes. Et en fait, le sentir, l'appréhension de cette prise de risque, elle est très différente de l'anxiété, qui est une peur qui est très différente. Enfin, moi, j'essaye de vraiment faire la différence dans ma vie entre quand je suis très anxieuse, très angoissée parce que je sens que je suis pas en train de m'écouter, je sens que je prends pas soin de mon intuition, etc.
Du coup, ça ronge, c'est un truc un peu...
Ouais, et de la peur de faire un truc où je sens que j'ai envie d'y aller, mais j'ai des pensées limitantes ou j'ai peur de me planter. Et en fait, c'est deux angoisses qui sont très différentes. D'ailleurs, il y a plus de la peur. Et l'angoisse, c'est un truc qui te ronge, qui est un peu différent. Et ça, l'angoisse, l'anxiété, moi, j'ai l'impression que c'est quand je m'écoute pas, quand je comprends pas ou quand je résiste à quelque chose, ce qui est un peu différent, quoi. Mais c'est vrai que se dépasser ou faire des choses qu'on a envie de faire mais qui sont un peu en dehors de notre zone de confort, ça provoque des sensations pas très agréables, ça c'est sûr. Mais il faut passer outre, quoi.
Bah c'est ça. Et du coup, quelque part, je sais pas s'il y a un âge ou un bon moment ou quoi, mais c'est vrai que l'entourage comprend pas toujours, mais quelque part, c'est important aussi de se dire à un moment donné, voilà, je dois m'écouter, j'ai envie de prendre ce risque-là et tant pis, j'ai peur, mais j'y vais quand même, quoi.
Ouais, alors l'entourage, ça dépend quel entourage. Et ça aussi, je pense que tu reconnais celui qui projette des peurs sur toi. Donc ton entourage qui a envie de faire des trucs. Et en fait, tu fais des trucs qu'il a super envie de faire.
Ouais,
qu'il a pas osé faire.
Ouais, qu'il a pas osé faire. Donc il dit, ah merde.
Donc il projette. Donc là, mais t'es sûr, nanana. Et puis tu sens l'entourage bienveillant qui a de la peur pour toi. C'est un peu normal. Et puis tu sens l'entourage qui va être un peu ta... qui va dire, allez, vas-y, je serai là, quoi qu'il arrive, en fait. C'est trois entourages qui sont très différents. Je dirais pour... bon, après, c'est chacun, hein. Mais s'il y a des gens qui projettent beaucoup d'angoisse sur toi, moi, c'est quelque chose, dans ces moments-là, parfois, il faut éviter, ou ça dépend des cycles de vie, mais tu sens bien les entourages qui te font du bien ou du mal. Ouais. Ça aussi, c'est super important dans une vie, je pense. Et puis, en termes de rencontres aussi. Il faut parfois laisser de la place à d'autres... Moi, je crois aussi au cycle de vie, de rencontres, c'est super important.
C'est ce qui était dans ton livre beaucoup. Et ce qui m'a plu aussi, c'est de me rendre compte qu'en fait, à quel point tu avais aussi des cycles de vie, ou en tout cas des vies différentes, ou des rencontres qui t'amènent dans des vies totalement différentes, et qu'à la fois, tu peux faire tout ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas. Enfin, tu as eu un moment donné dans ta vie d'envie de choses, d'envie d'autres choses ensuite, et que tu as le droit. Tu n'es pas obligé d'avoir une vie hyper linéaire, hyper.
Oui, mais parce qu'en fait, je pense que la vie. C'est toujours une histoire de... En fait, quand tu parles projet, tu parles rencontre. Je te demande de me raconter à Jean-Juillet, tu vas me parler d'une rencontre.
Bah, c'est sûr.
Qui est arrivée.
Mais oui. Sur un trottoir.
Sur un trottoir, et d'un coup, vous devenez associé. Non, mais c'est la réalité.
Mais c'est vrai.
C'est exactement ce que tu m'as raconté.
Mais exactement.
Donc, en fait, les projets, les bifurcations, c'est toujours des... C'est marrant, je crois que c'était le réalisateur de In the Mood for Love, j'ai un trou, comment il s'appelle ? Bon, je retrouvais. Qui disait... c'est peut-être Wong Kar-wai, je crois que c'est ça. Et en fait, il disait, les gens, ils sont très vite dans leurs habitudes, dans leur routine. Et en fait, ce qui les fait changer le plus vite de routine et d'habitude, c'est l'amour. C'est la rencontre amoureuse. Je me suis dit, c'est marrant, c'est assez vrai. Mais en fait, ça peut être plein de rencontres qui d'un coup bouleversent un peu ton univers, etc. Et donc, ça peut être un projet, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une histoire tout court, ça peut être une amitié, ça peut être quelque chose d'un coup qui t'ouvre des horizons. Et la rencontre, ça peut être un livre, ça peut être un auteur. Parce qu'avant qu'on se rencontre, ça a été un livre, ça a été une vidéo, ça a été...
Ouais, tout à fait, ouais.
Et bah, c'est déjà une rencontre, en fait, quelque part, avec, oui. Avec quelque chose, avec quelqu'un, et...
Ouais, c'est un témoignage qui te parle, quelque chose que tu partages. Et d'ailleurs, sur la littérature, c'est un peu fort sur plein de choses. Et je sais qu'on a ça commun, parce qu'en plus, on se l'est échangé, mais par exemple sur Camus,
ouais.
Que moi j'adore aussi, j'ai beaucoup lu. Et quelque part, c'est des fois assez perturbant de te dire à quel point tu peux être en accord, en tout cas te sentir lié à un auteur finalement qui est mort avant que tu naisses. Mais quelque part, et tu te dis, il a vécu une toute autre époque, un tout autre contexte de vie, enfin rien à voir. Et pourtant, ce qu'il écrit, ça te parle. C'est d'actualité dans ta vie, en tout cas ça t'aide dans ton quotidien, donc la rencontre elle est même parfois...
Ouais, c'est pour ça que le livre c'est toujours un auteur derrière ou une autrice, donc c'est quelque chose... Bon, Camus, ce qui est hyper troublant, moi ce qui me trouble vachement chez Camus, c'est le fait que c'était quand même un auteur que j'ai lu à l'école. C'est fou comme je... Mais j'aimais bien, enfin c'était pas du tout un truc fou ou hyper puissant pour moi, mais en fait c'est en vieillissant, en lisant...
Oui, aussi parce que peut-être ça parle sur d'autres sujets, c'est-à-dire qu'en fait tu lis basiquement à l'école, en tout cas tu lis et tu...
Mais je veux dire, l'étranger, la peste, l'homme révolté, etc., tu les lis, mais après tu les re-regardes complètement différemment, et puis ouais, il est d'une actualité tellement criante, c'est fou, parce que l'éloge de la nuance, c'est incroyable en fait, quand tu le lis, et même là je relisais son discours de Stockholm, quand il a gagné le prix Nobel, et c'est complètement fou ce qu'il dit sur l'époque, sur les idéologies mortes, sur une génération qui doit se battre pour que le monde ne se défasse pas. Enfin, c'est assez dingue.
Et c'est fou du coup que c'est vrai qu'on le lise aujourd'hui dans l'époque où on vit, mais enfin c'est pas un hasard. Voilà, aujourd'hui ces écrits ressortent beaucoup, il y a des artistes qui s'en resservent, mais voilà, c'est pas un hasard, parce qu'aujourd'hui en fin de compte c'est un penseur, comme on sert aussi des pensées philosophes de Sénèque ou quoi, qui peuvent ressortir régulièrement, mais quelque part
Camus,
voilà,
il y a un grand moment Camus. Bon, il y a la peste évidemment, mais il y a quelque chose... C'est marrant parce qu'il y avait un estival Camus la semaine dernière sur France Culture qui était assez passionnant. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que j'écoute tout et à chaque fois je le redécouvre. Mais ce que j'aime chez Camus, c'est que c'était un écrivain, c'était un philosophe, mais c'était un engagé aussi.
Ah, oui.
Mais c'était quelqu'un qui n'était pas coupé de la vie. C'est pas quelqu'un qui faisait des grandes thèses sur le monde.
Oui, et puis il avait en plus une vie passionnée aussi. C'est-à-dire que c'est un
amoureux de la vie, quoi.
Ouais, ouais.
Et ça se voit sur les photos, ça se voit quand il est en Grèce, ça se voit dans sa correspondance. C'est quelqu'un qui était dans la vie. C'est pas un philosophe, un écrivain coupé de la vie. Il se nourrissait de la vie, même s'il a bien sûr besoin de ses moments de solitude, etc. Et ça, je trouve ça très fascinant. Je trouve ça aussi très inspirant. Parce que t'as toujours l'idée un peu de l'écrivain... torturé, qui s'enferme.
C'est ça, ouais.
C'est pas Sartre, Camus, quoi. C'est
vraiment quelqu'un... C'est sûr, très différent.
C'est quelqu'un qui avait un truc solaire, quoi.
Et puis après, du coup, il y a ce destin, en plus, brisé, c'est-à-dire qu'en plus, une mort accidentelle qui fait que le gars, il aimait la vie, et voilà, c'est...
Ouais, c'est troublant, c'est troublant, et puis en même temps, d'un écrivain, tu deviens une légende, quoi, tu deviens quelque chose,
c'est ça.
C'est quelque chose.
Ouais.
Bref, mais moi, je dis souvent... Il nous aurait été vachement utile.
Mais c'est sûr. Mais c'est vrai, quand on lit La Peste, c'est impressionnant.
Et tout, il a voir... lui-même, je te dis, c'est vraiment sur la nuance, sur le fait de... Aujourd'hui, tu confonds le fait de dire « je ne sais pas » ou d'être nuancé ou de ne pas t'engueuler sur les réseaux sociaux comme étant quelqu'un de tiède ou qui ne prend pas parti. C'est pas du tout ça.
Ouais.
C'est de penser de la complexité du monde, en fait. Ce que dit aussi Edgar Morin, mais je veux dire, de penser le complexe, de ne pas dire « si tu n'es pas d'accord avec l'autre, l'autre est un abruti ». Et donc, les réseaux amplifient ça à chaque fois. Et moi, j'ai toujours ce truc de me dire, attends, lutte contre ton biais de confirmation. C'est super important. C'est-à-dire, moi, je sais quel est mon biais de confirmation. Je sais vers où je vais aller. Mais je pense que c'est important d'écouter aussi, de penser un peu contre soi, de temps en temps, pour être sûr, d'ailleurs, que ton opinion soit certaine.
Ouais, elle est forgée,
et surtout,
elle
ne pas
oublier
ce qu'est la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. c'est d'être OK de vivre dans un... Dans... Parce que si tu ne supportes pas les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, ça ne s'appelle plus une démocratie.
C'est ça.
C'est autre chose. Un pays où tout le monde doit penser la même chose, c'est autre chose. Donc il faut accepter que le débat et la démocratie, c'est le débat, justement. C'est le fait de ne pas penser la même chose que l'autre. Et en fait, on ne supporte plus ça. Moi, par exemple, j'ai remarqué, j'ai un réflexe quand quelqu'un dit des trucs qui m'agacent ou qui sont trop... Je vais avoir tendance à le muter, à mute sur Twitter.
Ouais.
Oh là là, ça pense... Il me saoule, en fait.
Je ne peux voir ses tweets parce que ça me
Exactement.
Gave.
Ouais. En fait, je me retiens de faire ça. Parfois, je me dis, tant qu'il n'est pas agressif, hein, tu ne le fais pas, en fait. Tant que c'est une pensée qui n'est pas exactement la même que la tienne, et donc tu es agacé, c'est quand ça devient agressif que j'aime pas. Là, je mute, mais je dis, tu ne mute pas, parce que c'est ça qui est intéressant, parce que sinon j'oublie ce qu'est la démocratie, ce qu'est le débat, ce qu'est le fait de penser ensemble, même quand on ne pense pas la même chose, en fait. Et c'est comme ça qu'il y a quelque chose de sain, peut-être, qui peut en sortir. Mais c'est marrant, pendant, je ne sais plus quelle était la cérémonie, c'était peut-être pas les Césars, les Oscars, mais une cérémonie américaine où il y a un artiste qui a reçu quelque chose, il a dit « Moi, je dédie cette récompense aux gens du milieu, les gens qui sont au milieu, les gens qui ne sont pas...
Oui, pas d'extrême d'un côté.
T'as dit ça, on ne veut plus jamais... T'es banni, t'es machin, etc. » Ou les gens qui... Ceux qui sont là au milieu pour essayer de ramener les gens qui sont là ici, près de... Et ceux qui sont là, de l'autre côté, aussi au milieu. Et dit « Ces gens-là aussi sont super importants. » Et donc, je trouve que c'était hyper important de penser que le milieu ou la nuance n'est pas la tiédeur.
Mais c'est ce qu'on appelle, enfin, on a vu là, ça dans la presse récemment, parce que comme il y a eu ça, une actualité un peu crispante, on a vu la majorité silencieuse, c'est-à-dire que finalement, tous ces gens qui ne s'expriment pas, qui d'ailleurs ne se déplacent peut-être pas à voter, ou en tout cas des gens qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui peuvent.
T'avais un article du Monde qui était très bien, Mathieu, de Luc Brenner, qui était un article du Monde qui a pas mal tourné. En fait, il a décidé, avant les régionales, d'aller faire un tour dans différents endroits de France, des villes, des villages. Et il arrive, il dit, est-ce que c'est aussi ça, la France? Il est dans un endroit où tout le monde était content.
C'est enfin, ça. Mais ça
les
arrive.
Gens faisaient leur vie, ils n'étaient pas sur Twitter H24, c'est ou ça. Pas sur Instagram H24. Ils faisaient leur truc, etc. Et il dit, en fait, il y a cette France-là aussi. C'est marrant, tu sais, moi, j'habitais aux États-Unis 5 ans. Et j'adorais, enfin, je trouvais ça toujours étonnant qu'on me disait, il y a la vraie Amérique. La vraie Amérique du Sud. Puis il y a la fausse Amérique des villes. Je dis, en fait, c'est les deux Amériques. C'est ça, la réalité. San Francisco, moi, j'habitais à San Francisco. San Francisco, c'est l'Amérique. New York, c'est l'Amérique. Chicago, c'est l'Amérique. Effectivement, quand tu vas chez les Mormons, quand tu sors de là, tu as un choc qui est hallucinant. Mais il n'y en a pas un qui est plus ou moins l'Amérique. C'est deux Amériques et qui sont dans une dichotomie qui est dingue. J'ai rarement vu ça dans un pays.
Mais c'est vrai qu'on a peut-être pas ça en France, quoi, peut-être, dans certains
endroits. Mais... Je pense que l'Amérique est un pays qui est plus... dans l'invectif vis-à-vis de l'autre camp. Il y a quelque chose de plus extrême. Moi, je trouve que c'est une société qui est plus violente.
Mais c'est peut-être parce qu'il y a moins communauté. Enfin, c'est plus c'est
non,
plus
mais tu vois, des... déjà, ne serait-ce que la culture... Par exemple, ce matin, je lisais sur NPR. Est-ce que tu imagines un chiffre pareil en France? Il y a eu, pendant le week-end du 4 juillet, qui est la fête nationale américaine, il y a eu 180 morts par arme à feu, le week-end du 4 juillet. Est-ce que tu imagines une stat pareille en France, où tout le monde trouvait ça normal, quand tu vois ce qu'un fait divers... tiens, en haleine sur une chaîne info. Est-ce que tu imagines un chiffre pareil?
C'est
sûr. Tu imagines... Et donc, je me dis, ça, c'est un truc qui est fou. La culture du gun, c'est un truc très étonnant dans cette société. Et je suis toujours étonnée qu'on la prenne en exemple. Alors moi, j'ai passé 5 ans, donc c'est un pays qui m'a apporté plein de choses, etc. Mais cette culture-là, je trouve ça... Et donc, les États-Unis et nous, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même culture. Je suis toujours étonnée qu'on regarde de l'autre côté en se disant... Il y a des choses très intéressantes, notamment on parlait culture, littérature, cinéma, enfin on va pas y revenir, mais c'est passionnant.
Même d'ailleurs sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que souvent on prend son modèle parce que voilà, tu peux entreprendre, tu peux échouer, tu peux refaire, etc.
Bon, c'est une réalité, ça, quand même.
On n'a pas ça en France où c'est un petit peu plus stressant parce que si tu échoues, après tu as des 1000 dossiers à faire.
C'est pas des gens, les Américains, enfin moi de ceux que j'ai vus à San Francisco, c'est pas des gens qui kiffent l'échec, hein. C'est pas des gens qui se disent loser, amazing. C'est juste que le storytelling autour de la lose est différente.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que t'as le droit d'échouer si tu rebondis, quoi.
Ils ont fait un storytelling de « je vais me relever », etc. Alors que nous, t'as tendance à avoir l'étiquette de la lose. Donc, ils n'aiment pas la lose du tout, hein. C'est un peu « tu marches ou crèves, les États-Unis, quand même ». Ils font un storytelling différent de la lose. Ce qui est un peu différent, parce que non, il faut mieux être riche et en bonne santé aux États-Unis.
Ah, bah, c'est
quand
sûr,
même très violent socialement. Mais ils racontent le truc... Ils racontent le truc un peu... Ils ont ce talent de storytelling. Le seul endroit où le storytelling de la lose marche en France, c'est la politique.
Oui.
C'est le seul endroit où j'entends le traverser du désert.
Ouais. Pour après se reprendre après, et puis ressortir.
Après, t'as traversé du désert, tu reviens et ça. Je ne sais pas pourquoi c'est le seul endroit en France où la traversée du désert... Bah en politique, tu peux storyteller le truc. Ça dit quelque chose que je trouve hyper chelou. J'ai toujours pas compris. Je dis, c'est marrant. L'échec, tu vas le porter sur ton dos. Là, tu vas flipper. Tu vas te faire 14 burn-out avant de lâcher ta boîte en te disant c'est l'horreur, etc. Ou même ton boulot. Mais en France, tu peux raconter ta traversée du désert, ta repentance, tes 4-5 ans où le téléphone n'a pas sonné. Hein. Et finalement, peut-être tu te reconstruis au Canada ou ailleurs. Tu vas faire du miel. Hein. Et tu reviens un autre homme.
Mais ouais, c'est vrai.
Et ça,
on n'a pas le droit, nous, de faire ça, les entrepreneurs, et d'aller faire du miel. Si
les gens qui nous écoutent, j'aimerais vraiment comprendre.
Mais oui, c'est vrai.
J'aimerais vraiment comprendre pourquoi eux ont ce droit de la traversée du désert romantisée, c'est vrai, la tentation de Venise, comme dirait Alain Juppé, et nous, non. Ouais, ça change un peu, hein, évidemment, mais je trouve ça très drôle. J'ai toujours pas compris. Peut-être qu'on est un pays beaucoup plus politique que les États-Unis, enfin un peu différemment, mais je sais pas.
Ah ouais, c'est très différent. Mais ça, c'est sûr, je pense qu'on est un pays très politique.
Tu sais, moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, on m'a dit deux choses dont tu ne parles jamais à table, religion et politique. J'ai dit, oula.
Bah merde, j'ai pas de sujet.
Parce que pour les Français, ça va être compliqué, quoi. Je suis ah, ni l'un ni l'autre. Donc,
j'ai parlé bouffe alors, mais aux États-Unis, est-ce que c'est passionnant? Je suis pas sûre.
Ça. Non, bah si, alors ça, pour le coup, non. En plus, à San Francisco, en Californie, alors en plus, moi qui suis veggie. Scène foodies passionnante. Ouais. Bon, attends, on va pas aller là-dessus, ça n'a aucun intérêt, mais j'aurais défendu les États-Unis sur la bouffe.
Là, c'est. Marc, ce sera un podcast un peu engagé, tu vois. Un podcast healthy food sur les
États-Unis. C'est marrant que tu dises ça, parce que moi, je crois que même quand un podcast n'a pas l'air. Moi, je crois que chaque prise de parole, finalement,
mais c'est sûr.
Est un engagement. Mais moi, je crois que tout est politique, tout n'est pas partisan, mais je crois que tout est politique dans le sens où politique, c'est la vie de la cité. Et donc, ça parle de ton rapport aux autres. Comment tu envisages leur rapport aux autres, ton interaction avec eux. Donc moi, je crois que toute prise de parole, même si elle n'en a pas l'air, elle est politique.
Et en plus, sur juillet, c'est important pour nous, sur le choix de nos invités, parce que, en fait, tu ne crois pas si bien dire là-dessus.
Politique
même si,
au sens civilité, mais oui. Voilà ce que je veux dire.
Et puis, puis au sens valeur, c'est-à-dire que nous, avec Julien, on a fait le choix, au-delà d'une agence événementielle, de créer vraiment une marque et des valeurs autour de ça. C'est-à-dire qu'on s'était dit, on a envie de faire des événements qui nous ressemblent, parce que voilà, on a une période de notre vie où si on crée notre marque, on crée notre agence, c'est pour aussi faire des choses qui nous plaisent. Mm-hmm. Et donc, quelque part, on s'est dit, on veut s'entourer de gens aussi qui partagent nos valeurs ou notre vision, en tout cas d'essayer de tirer vers quelque chose qui nous ressemble. Et donc, quelque part, nos invités sur les podcasts, ils sont un peu politiques, entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas...
Je vais pas dire entre le mot politique et le mot civilité.
Non, mais c'est ça, entre des valeurs.
Le civisme, comment tu te comportes avec les autres, qui tu es. Moi, je crois que... mais ça te semblait très con, mais je pense que quand tu passes une porte, la façon dont tu dis bonjour, la façon dont tu te comportes, la porte que tu vas tenir au restaurant derrière toi, la place que tu vas laisser dans le bus, je ne fais pas tellement de différence entre civilité et politique dans le sens de la vie avec l'autre. Être partisan, c'est quelque chose de très différent. Moi, je crois que je ne suis pas faite pour être partisane. Finalement, je l'ai compris. Hein.
Fait ce choix-là, d'ailleurs.
Oui. Moi, je serais quelqu'un de très engagé toute ma vie. Mais partisane, au sens être dans un parti politique. Mais même moi, je ne suis pas une activiste en réalité. Moi, je ne suis pas quelqu'un... J'ai beaucoup de respect pour ce que font les associations activistes. Je pense que c'est hyper nécessaire, mais on en parlait. Se connaître, c'est savoir où est sa place. Et en fait, moi, je dis, OK, ce moteur-là, ce n'est pas exactement moi. Ou alors, c'est peut-être trop intense pour moi. Ou c'est peut-être... L'activisme, c'est beaucoup de... Il faut une force, il faut une rage, il faut quelque chose de... C'est très dur, ça peut te bouffer, hein, quand même. Et moi, en fait, c'est pas exactement mon moteur, même si je pense que c'est très nécessaire dans une société. Mais du coup, je pense qu'il y a mille façons, en fait, d'être engagé.
Engagé, ouais.
Et pour moi, ça passera plus... jamais dire jamais, mais franchement, là, avec un peu de recul, quand même... Moi, par exemple, je pense qu'un parti politique, c'est pas du tout pour moi. C'est-à-dire que je te dis ça, tu vas dire... Hein? Ce qu'elle a fait la campagne en 2017, etc. Mais au final, moi, quand j'ai fait la campagne en 2017, quand j'étais porte-parole et déléguée nationale d'En Marche, j'étais pas du tout dans un parti politique pour moi. J'étais dans une espèce d'aventure quasiment entrepreneuriale.
Mais start-up. Mais,
c'est-à-dire que moi, j'étais dans un truc où je rentrais des États-Unis, j'étais en pleine séparation, j'avais besoin de comprendre pourquoi j'étais là, j'avais besoin de faire quelque chose de plus grand que moi. D'ailleurs, ça, je pense que ça me restera toujours. Mais moi, j'ai l'impression qu'on se rencontrait. Eux avaient un besoin, et moi aussi, j'avais un besoin. Donc, et en plus, j'y croyais. Je veux dire, moi, j'ai aucun regret, même si aujourd'hui, j'y suis plus du tout, etc.
Et puis, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Enfin, c'est-à-dire que...
Oui, bon, après, moi, je vais te dire, moi, j'ai aucun regret dans ma vie. C'est vraiment le seul truc que je me reconnais. Après, est-ce que ça se passe exactement... Enfin, moi, de toute façon, je resterai naïve toute ma vie. Je pense que c'est pas du tout un gros mot. Moi, la naïveté, je la prends. Je veux garder ça. Je pense que... Tu sais, c'est Ernest Hemingway qui disait pour savoir si tu peux faire confiance aux gens, il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est faire confiance. Je pense, c'est ça. Je pense exactement la même chose. Mais donc moi, je te dis, j'ai aucun regret sur ce moment-là de ma vie. Ça m'a apporté tellement de choses, j'ai appris tellement sur moi, etc. Mais moi, j'ai jamais eu l'impression d'être dans un parti politique. D'ailleurs, dès que c'est devenu un parti politique, moi, j'avais plus rien à y faire.
Mais, et moi, j'ai trouvé ça hyper courageux. Alors, je sais pas, j'imagine que tu as échangé avec plein de gens là-dessus, mais bon, moi, je suis très intéressée par la politique et évidemment, cette campagne, ça m'intéressait par son côté aussi un peu exceptionnel et puis par ce qui se passait en France. Je trouvais que c'était vraiment un mouvement différent, enfin, peu importe. Mais du coup, j'ai suivi un petit peu ça de près et les nouveaux ministres qui arrivaient, etc. Et enfin, je sais pas ce qu'on t'a proposé, mais j'imagine que tu as dû refuser des choses.
Donc, tu n'as pas lu le premier livre.
Si, c'était secrétaire, c'était pas ministre, je crois, c'était ministre.
Non, Charlotte, ce n'était pas ministre.
Ouais, c'est secrétaire, c'est ça. Non, c'est pour ça. Secrétaire, j'avais plus le truc exact en tête. C'est pour ça que j'avais pas le terme exact. Et tu refuses ça. Personne
refuse
ça.
Ouais, c'est plus compliqué.
Non, ce que je veux dire, c'est que.
Si, des gens refusent. Des gens refusent. Et en plus, moi, je vais te dire, j'ai tellement le syndrome de l'imposteur que j'ai jamais dit que j'avais refusé. J'ai dit que j'avais un rendez-vous avec Édouard Philippe, hein, ce qui est réel, à 8h du mat, le 16 mai. Et que ça se passe pas bien, quoi. C'est-à-dire que lui, il trouve que je suis nulle, parce que moi, j'ai rien à proposer, je sais même pas pourquoi je suis là, moi, j'ai pas envie du poste. Donc, en fait, c'est comme un entretien d'embauche qui se passe mal. C'est-à-dire, moi.
Et puis, lui, c'est un homme politique vraiment, c'est-à-dire que lui, je pense qu'il est
c'est
aussi.
C'est même pas
dans
ça, moi, je suis pas très impressionnée. Enfin, je suis pas très impressionnée, moi, je suis claquée. Déjà, je peux te dire, une campagne, c'est le truc le plus épuisant que j'ai fait de ma vie. J'ai plus de jus, je pense plus droit, je suis crevée, je me suis levée à 6h du matin, c'était mon obsession. Je voilà que je me lève à 6h du mat pour ce rendez-vous à 8h, tu vois, où j'en suis psychologiquement. Donc je n'arrive même pas à m'imaginer le lendemain en Conseil des ministres. Pour moi, c'est physiquement et psychologiquement impossible, quasiment. Donc j'en suis même pas à me dire, oh, il est impressionnant, machin. J'en suis pas du tout là. Moi, je suis vraiment en train de me dire, surtout, surtout, une règle. Tu dis oui ou non pour les bonnes raisons. Tu dis oui parce que t'en as envie. Tu dis non pas parce que t'as peur, mais parce que t'en as pas envie. J'étais obsédée. J'étais là. Dès qu'il dit le mot, tu
des
vois
un recul hyper
dans,
enfin, moi, je trouve que...
dans tes guts. Ouais, il y a un recul et puis pour moi c'est vital. De toute façon, quand je prends la mauvaise décision, je suis en PLS, position latérale de sécurité pour les gens de plus de 40 ans. je suis en PLS, je suis pas bien, je somatise, je suis hyper hypochondriaque, donc d'un coup, je vais complètement. Donc de toute façon, pour moi, c'est quasiment vital de prendre la bonne décision. Donc je me dis, ok, il va arriver de son petit bureau là, donc les huissiers viennent te chercher, tu rentres par une porte dérobée, enfin.
Le stress total.
Et tout le truc, tu vois, tu traverses le jardin de Matignon et tout, tu arrives et j'attends 5-10 minutes et tout. Moi, c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré. Je l'ai jamais vu pendant la campagne. Jamais.
Mais non, parce qu'en plus,
il
est dans l'autre
moi,
partie.
Je suis hyper méga affective. Oui. Donc, je suis là. Je me dis, demain, c'est mon boss. C'est complètement dingue. Surtout que moi, j'ai pas eu de boss depuis des années. Donc, je me dis, demain, c'est mon boss.
Ouais, puis là, c'est un boss en mode administratif, en mode.
En mode fin de la liberté.
Ouais, c'est ça.
En mode, je le connais pas.
Puis les médias vont être sur toi, puis tout le monde va analyser toute ta vie.
Ouais, mais ça, je vais te dire, quand tu fais une campagne, cette peur-là, c'est un truc déjà
ouais,
que tu as un
ça,
peu
ouais.
dépassé, quelque part. Même si c'est pas la même pression, parce que finalement, la star, c'est le candidat, c'est pas toi. Mais tous les trucs autour de l'entourage et tout, bon, ça, tu as déjà fait. Même si être dans le gouvernement, c'est une autre exposition. Mais je veux dire, moi, j'étais obsédée par ne fais pas d'auto-sabotage. Et ne prends pas la décision, ne dis pas oui pour faire plaisir à je ne sais pas qui, pour avoir le titre, pour avoir une espèce de reconnaissance, un paluchage dans le dos de dire je suis quelqu'un qui vaut le coup. Tous les trucs d'insécurité, en fait, sur soi. Je me dis, vraiment, centre-toi, quoi. Centre-toi au moment... Donc lui, il n'a aucune idée de toute cette réflexion dans ma tête. Mais du coup, moi, quand il franchit la porte, il arrive de son mètre 92, là, je m'assois avec lui... Et je n'ai rien à dire, parce que moi, ce poste, je ne l'ai absolument pas pensé. Donc, j'ai pas à lui offrir un truc. Alors voilà, ma feuille de route.
Mon plan de carrière sur 10 ans.
Non, c'est pas mon plan de carrière. Ce qui est lui, il veut une feuille de route. Il veut voir quelles seraient les politiques publiques que tu mettrais en place.
Oui, d'accord.
Tu comprends. C'est-à-dire, moi, je comprends ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas réfléchi à... Alors, on va commencer par ça. Ensuite, on va aller mettre des pylônes au fin fond des zones blanches. Je suis pas du tout là-dessus, moi. Parce que d'abord, ils me prennent pour une technocrate. Parce que j'ai habité 5 ans à San Francisco. Mais moi, il y a mille autres choses qui me passionnent. Je suis pas du tout une geek girl. Je suis pas du tout une techno girl. C'est pas parce que j'ai habité 5 ans à San Francisco.
Oui.
Moi,
et c'est pas pour ça que tu y allais, en plus.
Exactement. C'était absolument pas pour ça que j'y allais. Donc du coup, moi, j'ai le défaut de la généraliste curieuse. Je suis pas du tout une spécialiste. Ce qui a été mon drame pendant des années, j'essaye aujourd'hui d'en faire une chance. C'est-à-dire de me dire, moi, il y a plein de choses qui m'intéressent et je suis experte en rien. Donc comment je fais un chemin de vie et un chemin professionnel de ça ? Bon, dans la politique, tu peux faire un peu ça. Parce que finalement, tu t'intéresses à plein de choses. C'est ça qui est intéressant. Mais quand tu es secrétaire d'État au numérique, d'un coup, moi, j'allais me dire, attendez, moi, j'habitais 5 ans à San Francisco, mais il y a 1000 autres sujets qui me passionnent. Notamment, moi, l'art. Enfin, moi, oui. Je suis quand même une passionnée de Cinoche. Je me sens beaucoup plus proche des artistes. Enfin, les personnes qui m'inspirent ou qui me nourrissent le plus sont des artistes. J'ai pas un poster de Jeff Bezos ou Elon Musk dans ma chambre.
Ah ben voilà.
Mais pas du tout. J'ai un poster d'Albert Camus, ouais. Mais pas d'Elon Musk. Donc du coup, quand j'arrive en face de lui, je comprends. Je lui dis, je comprends pourquoi vous me proposez. Hein, parce que c'est espèce de truc. Mais en même temps, c'est... D'abord, moi, je dis, je pensais que ce poste allait être supprimé. Parce que j'ai toujours pensé que Macron n'y croyait pas tellement. Je te dis ça, maintenant, il y a eu Mounir, il y a eu Cédrico, etc. Donc le poste, il existe. Hein. Mais en même temps, est-ce qu'il existe? Enfin, bref, de toute façon. Ouais. Mais je veux dire, moi, j'étais persuadée que le poste n'existerait pas. Donc moi, je pose une question qui est... tu es sous tutelle de qui, en fait? Parce que, par exemple, tout le monde me comparait à Fleur Pellerin à l'époque. Mmh. Fleur Pellerin, elle était ministre des PME, de l'innovation et du numérique. C'est très différent qu'être secrétaire d'État au numérique.
C'est ça, c'est pour ça, ministre et secrétaire
d'État. Donc, c'est pas du tout... Ah, c'est trop petit pour moi. C'est pas du tout ce que je dis. Mais ce que je veux dire, j'étais là, bon, c'est quand même un truc très, très limité. Puis surtout, j'étais crevée. Je me disais, demain matin, tu vas être au Conseil des ministres entre Bérou et Gérard Collomb. Est-ce que c'est toi?
Oui, mais si tu le vends comme
vraiment,
ça...
Vraiment, ouais, vraiment, je me dis, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ta vie? Est-ce que cette personne qui va être entre Bérou et Gérard Collomb, comme ça, en PLS, avec... Moi, quand je suis stressée, j'ai des symptômes physiques partout, donc je vais devoir rester assise comme ça, et qui va être en PLS en se disant, pourvu que je ne fasse pas une attaque de panique pendant le Conseil des ministres, ça la fout très mal. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu vas être bien?
C'est ça.
Alors que moi, je rêvais que d'une chose, c'était de m'évanouir dans le paysage... De disparaître, j'ai été tellement en exposition pendant 8 mois. Mm. Moi, ça se voit pas parce que je parle beaucoup, je suis pas quelqu'un de très timide, mais je suis hyper solitaire. Hein. Donc moi, j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin de récupérer de l'énergie, j'avais plus de jus. J'étais vraiment en jachère, hein, psychologiquement.
Et puis prendre du recul, enfin, je veux dire, ce que vous avez vécu, c'est émotionnellement, c'est fort.
Et en fait,
j'étais là,
ce dont tu rêves, pour de vrai, Axel, demain, c'est d'être en peignoir à 11h du mat, en train de regarder BFM, en regardant la...
En train de regarder Gérard Collomb, mais sur BFM.
En fait, regarder la nomination du gouvernement, toi en peignoir, c'est ça que tu veux, en réalité. T'as pas du tout envie. Donc en fait, je lui ai dit, il faut vraiment s'écouter là-dessus, parce qu'en fait, sinon, de toute façon, j'aurais jamais tenu. Je pense que j'aurais fait une Hulot plus vite que Hulot, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, il y avait cette réputation, je sais plus, quelqu'un m'envoie un SMS, qu'après, tu sais, t'as toutes les rumeurs et tout. Quelqu'un m'envoie, ouais, il a la réputation que tu serais ingérable. Je dis, merci pour le compliment. Tu vois, parce que moi, je crois pas du tout au fait. Moi, je suis pas... Ingérable, ça veut rien dire. Difficilement tenable. Enfin, je sais pas. Je dis, oui, alors moi, j'ai pas envie qu'on relie mes interviews. J'ai pas envie qu'on... Et j'aurais pas la note du professeur à la fin de 6 mois. Enfin, c'est pas possible pour moi. Je vis pas comme ça. J'ai payé cher le prix de ma liberté.
Oui, c'est ça.
Mais je veux dire, parce que j'aime pas du tout faire ce discours anti... je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui aillent en politique. Des
non,
gens
mais
comme
bien
toi.
Sûr.
Comme toi, comme nous, qui soient pas du sérail... Moi, je crois que j'ai énormément de défauts, mais je supporte pas aller contre mes valeurs. Je supporte pas faire des compromis avec moi-même. Je supporte pas faire un truc qui me semble pas juste pour moi. Et je pense que c'est quand même important d'avoir des gens qui ont ces... Je dis pas qu'on est plus moral que les autres, c'est pas du tout le mot de moralité, mais une espèce de truc où tu sais quels sont tes moteurs dans la vie. Et donc, je pense qu'en politique, parfois, moi, ce que j'ai vu, il y a des gens, pas tous, j'ai rencontré des gens géniaux, hein, vraiment, notamment les volontaires, etc., qui sont des gens qui y croient à fond. Mais le problème... c'est que c'est aussi un milieu qui attire beaucoup de gens qui vont penser des blessures monstrueuses, hein, des blessures d'ego, des blessures de reconnaissance, des blessures... Et donc, parfois, c'est des moteurs qui sont dégueulasses. Mais moi, je l'ai dit dans mon premier livre, où je voyais tout d'un coup que j'avais des moteurs, et j'étais là, attends, tu l'as fait pour quoi, cette campagne? Pour voir ta tronche à la télé? Pour être celle qui parle au meeting? Ou parce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu crois vraiment à ce que tu vas défendre? Est-ce que tu crois vraiment que ça va changer la vie des gens?
Ou est-ce que demain, tu pourrais faire la même chose pour n'importe quelle autre personne?
Parce que ça, c'est sûr que non. Mais ce que je veux dire, moi, je me vérifiais tous les matins en disant, est-ce que tu y crois toujours exactement comme hier? Pour moi, c'était super important. Et donc, en fait, c'est toujours de vérifier ces moteurs-là. Donc, je pense que c'est très important qu'il y ait de l'engagement. Je pense que c'est très important qu'on se rende compte de notre puissance en dehors seulement de la politique en tant que celle qui est faite par les politiciens, etc. Il y a une force en nous, en tant que société civile, en tant qu'être humain à son échelle, qui pour moi est complètement dingue, qu'on sous-estime. Moi, toujours, les gens me disaient après la campagne, mais qu'est-ce que tu vas faire d'aussi excitant? Quand tu as pu parler à des millions de gens, puis tu as parlé à Bercy, mais après ta vie, enfin, pfff, je suis là, non mais attends. Bon, déjà, tu vois, déjà, j'ai pu être dans l'ombre de quelqu'un.
Et puis déjà, je vais faire un podcast de l'instant juillet.
Ça, c'est très important. Enfin, 5 ans plus tard, je ne l'avais pas encore en tête, mais tout à fait. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je trouvais marrant, c'était d'abord, je ne vais plus être le porte-voix de quelqu'un d'autre que moi, qui est quand même difficile pour moi, parce que c'est quand même ça, une campagne. Quand tu n'es pas toi-même candidat, tu es la parole du candidat. Et surtout, je dis, mais pour moi, aider 5 personnes ou 5 000, en fait, c'est la même chose. L'échelle est différente. Mais si, en aidant ces 5 personnes, tu es exactement à l'endroit où tu dois être, c'est là où tu es le plus utile. Et je crois beaucoup à l'effet, au ripple effect, à l'effet ricochet. Et je dis toujours, mais moi, mon livre, après, ça a été un bonheur pour moi. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, parce que tu t'exposes. Mais pour moi, ça a été un bonheur absolu de rencontrer les gens, de recevoir des messages, de partager avec eux. C'est plus parce que j'avais plus ma tête à la téloche ou que j'allais pas être ministre avec un titre. J'ai dit, mais le bonheur était bien plus intense parce qu'il était beaucoup plus authentique. J'étais beaucoup plus à ma place. Et surtout, j'ai fait ce que je devais faire, ce qui était écrire. Ce qui, pour moi, était important. Après,
t'avais aussi ce... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'avais compris dans le livre, alors tu vas me dire si
lequel,
c'est exact.
Le deuxième,
c'était, ouais. le deuxième, mm-hmm. c'était de dire aussi qu'après les États-Unis, c'est tombé un moment où il se trouve que t'as fait cette campagne parce que c'est tombé à ce moment-là, mais parce que tu voulais revenir en France après cette histoire d'attentat, etc. Et quelque part, t'avais envie aussi d'être dans ton pays, te dire la France, j'ai envie de...
Ouais. Alors ça, je dis pas... Je l'ai pas storytellé. En fait, dans le livre, je dis pas exactement ça. Je dis, c'est marrant, c'est comme si la grande histoire et ma petite se retrouvaient, c'est-à-dire... Moi, j'ai eu l'impression que je voulais rentrer de San Francisco pour plein de raisons personnelles, la fin d'un cycle, etc. Et en même temps, il arrive ça, donc la grande histoire, c'est-à-dire il y a ma petite histoire très égoïste, très égocentrique, qui est que je sens que c'est la fin d'un cycle et j'ai pas le courage. Ça prend du temps pour moi de mettre fin, de quitter cette personne que j'aimais, de rentrer dans mon pays où j'avais quand même... À San Francisco, c'était un peu ma bulle quand même. Moi, je trouve parfois que quand t'es loin de là où tu es né, des injonctions sociales, une espèce de liberté d'être étranger... dans un endroit que moi je trouve très forte quand tu n'es pas discriminée. Enfin, c'est beaucoup plus facile de dire ça pour moi qui suis une nana aux États-Unis à San Francisco que quand tu es étranger, exilé.
Oui, bien sûr, oui.
Donc je parle évidemment quand tu es dans une situation comme la mienne où tu ne vis pas de discrimination, enfin, à part être une femme dans la tech et encore, il y a quand même des discriminations. Enfin, voilà, c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une liberté d'être soi qui était assez fort. Donc moi, j'avais un peu peur de retourner chez moi. Tu retrouves des injonctions sociales, tu retrouves ton cadre social, tu retrouves ta famille.
Puis ton enfance avec, du coup, les angoisses que tu as eues, en tout cas, les
angoisses
les
de
échecs.
L'enfance,
ou...
tout, ta famille, tu l'aimes, et en même temps, c'est des espèces de... C'est des cadres qui sont très forts, très particuliers. Je te dis un truc débile, mais moi, ne pas avoir eu à me soucier de Noël ou du Nouvel An pendant 5 ans a été une espèce de soulagement incroyable. Parce que j'aime pas les fêtes de famille, j'aime pas les trucs obligés, j'aime pas les choses où j'ai l'impression que je mets un masque par rapport à quelque chose qu'on attend de moi. Mais c'est pas du tout contre ma famille. C'est moi, ma mère, j'en parle beaucoup dans mon deuxième livre. On s'entend hyper bien. C'est vraiment une de mes héroïnes du quotidien. Donc c'est pas du tout ça. Mais j'aime pas les injonctions, j'aime pas les trucs où je sens que je me force à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire et je n'ose pas dire non. Et donc. Des espèces de détails comme ça dans la vie qui n'en sont pas. Et en fait, rentrer impliquait plein de choses. Mais en même temps, rentrer voulait dire rentrer différente, rentrer en ayant repris un peu confiance, rentrer en ayant trouvé peut-être ma place plus que quand j'étais partie, et rentrer en étant... en s'écoutant, je sentais bien. Et puis j'avais commencé à faire beaucoup d'allers-retours pour Kickstarter quand même, que je lançais, parce que j'avais lancé mon agence de conseil après avoir été dans une start-up. Et donc je sentais bien, tout le monde pense que finalement ma séparation s'est faite parce que je passais beaucoup de temps en France et que donc un couple ne peut pas tenir comme ça. Mais je pense que c'est complètement dans l'autre sens. Moi je commençais à faire beaucoup d'allers-retours parce que j'étais en train de partir. Et non pas, c'est parce que je faisais beaucoup d'allers-retours que je suis partie. C'est-à-dire j'utilisais, c'est tout, j'utilisais pas, mais toutes les choses auxquelles tu commences à dire oui, tu commences à sentir, mais tiens ça me ramène vachement.
Ouais.
Tiens, j'ai
oui, tu cherches en fait des signes. En tout cas, tu te dis, voilà, j'essaie de trouver des...
Non, je crois aux lois de l'attraction. C'est tout d'un coup, toi, ton attitude qui commence à changer quand tu as pris une décision à l'intérieur de toi. Donc en fait, tu ne te retrouves pas aux mêmes endroits, tu ne te retrouves pas avec les mêmes personnes, tu ne te retrouves pas du tout avec les mêmes opportunités. Parce que finalement, la décision, elle est déjà prise. Mais entre ce que mon cœur a décidé et la flip totale de mon esprit, il se passe des mois. Mais moi, ce qui m'a fait prendre la décision, c'est la souffrance de l'autre, déjà, qui n'est pas très agréable. Moi, j'aime pas faire souffrir les gens. J'aime pas faire souffrir, déjà. Et en plus, quelqu'un que t'aimes, ma souffrance à moi, parce que moi, je somatise. Je m'écoute tellement pas que je finis aux urgences. Je me souviens d'une fois où j'avais fait 3 conférences en une journée, j'étais épuisée. Je sors de l'Assemblée nationale, c'était en 2016, je m'écroule. Mais je suis incapable de dire, je finis à la pharmacie, les pompiers viennent me voir, je leur dis, écoutez, je crois qu'il n'y a rien. C'est comme des attaques de panique, tu trouves rien, en fait, je vais vraiment t'expliquer. Mais en fait, un ami de mon ex-mari me retrouve. Et il me dit, vous souffrez tellement, là, tous les deux, à ne pas prendre de décision. Vous êtes en train de vous bouffer de l'intérieur. Et je dis, mais c'est exactement ça, en fait. Je dis, je ne prends pas... Tu sais, quand tu as tellement peur de prendre la décision, donc, en fait, c'est le moment avant la décision qui est le pire. Et en fait, pour moi, je me dis, il faut que je décide de rentrer. Il faut que je prenne ces décisions. On est en train de se bouffer, en fait. Je suis en train de... Et en fait, moi, je me souviens très bien, la décision a été terrible à prendre. Je le raconte dans le livre, l'aller-retour dans l'avion, etc. C'est horrible, mais quand je suis rentrée à Paris, après cet aller-retour de 48 heures à San Francisco, même si c'était très dur, t'as le droit d'être triste après avoir pris une bonne décision.
Voilà. Oui, c'est ça. Mais t'es soulagée, t'es triste, soulagée.
Faut que les gens comprennent que c'est pas parce que t'es hyper mal après une décision, il va falloir vraiment passer ce temps et la tentation de revenir en arrière, parce que la sensation est tellement désagréable que tu dis, attends, c'est trop dur, je reviens en arrière, parce que c'est ce moment de transition qui est très difficile, hein, où tu sais qu'il fallait la prendre, mais c'est tellement désagréable, t'as toujours la tentation de revenir en arrière, toujours. Et en fait, il faut passer ce moment-là, parce que t'es hyper mal, mais en même temps, j'avais un espèce de soulagement, parce que la décision était prise. Donc, je me souviens très bien, quand j'ai atterri à Paris le 1er janvier 2016, décision horrible, les pleurs pendant 48 heures, etc., mais 6 valises, mais j'étais de l'autre côté de la décision. Et en fait, ça change tout. Alors, je peux te dire qu'entre le 1er janvier et l'avril, l'horreur, en termes de sensations, en termes de pleurs, en termes de coups de fil à 3h du matin, disant « Attends, j'ai changé d'avis, etc. » Alors qu'en fait, pas du tout, t'as juste peur. Tu fais juste une espèce de... Alors qu'en fait, t'as absolument pas changé d'avis. Enfin, même quand c'est toi qui pars, c'est très dur, en fait, de partir. Et puis, il y a la peur, il y a l'angoisse d'être seule. Et puis, en plus, si ça réveille... Pareil, j'en parle dans le livre. Si ça révèle plein d'angoisses de l'enfance, ben, en fait, c'est le passé qui s'invite dans ton présent. Donc, c'est un truc hyper violent. Tu mixes tout ce que tu ressens au moment présent avec des angoisses qui sont vieilles, qui sont ancestrales, qui ont 30 ans dans ta vie. Donc ça, je trouve que la phase de transition, on n'en parle jamais, mais c'est une phase qui est hyper importante. Parce qu'en fait, on croit toujours quand un projet est un autre, tranquille. Mais pas du tout. En fait, il y a une espèce de phase de transition qui est horrible, hein, qui est obligée de passer. Et pour moi, qui est la plus dure, parce que c'est une phase de non-action. Et en fait, moi, l'action me libère de l'angoisse, de l'anxiété.
De non-action, puis de solitude aussi, du coup. Parce que
ouais, mais alors moi, la solitude ne m'angoisse pas, parce que moi, j'adore travailler seule, etc. C'est plus le fait de ne pas savoir, d'être dans cette espèce de marécage entre une porte qui se ferme et un pont qui n'est pas encore tout à fait là, quoi. Et dans l'aspect de ce no man's land, que moi, je trouve très agréable, parce que moi, l'action m'aide, la création m'aide, et en fait, tu ne peux pas passer, tu ne peux pas éviter cette putain de zone-là. Qui parfois dure un mois.
Qu'est-ce que
tu
fais dans ce cas-là? Tu te projettes? Tu dis quoi? Tu dis, non, bon, le pont, il va se finir.
Ne dis jamais le mot projection à une anxieuse, parce que l'anxieux, il fait toujours de la projection anxieuse. C'est-à-dire, l'anxieux, il pense toujours que le pire va
t'arriver. Tu te projettes dans le pire, donc ça va pas.
C'est marrant parce que les samouraïs, ils font ça et ça marche, parce que le samouraï, il s'attend toujours au pire. Et en fait,
ça leur permet d'avancer.
Exactement. Ouais. En fait, ça lui permet de rester très calme quand le pire n'arrive pas. Mais l'anxieux, il a toujours faire de la projection anxieuse, ne jamais se projeter. Nous, il faudrait vraiment qu'on soit Bouddha, soit vraiment dans le moment présent. C'est la seule solitude. La seule chose à faire, c'est l'enfer, ça se traverse, quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ouais, il n'y a rien à faire. Tu es obligé de le traverser. Après, l'enfer, c'est un mot. Ce que je veux dire, c'est que chacun a sa définition. Ah oui, moi, je veux dire aussi ça, parce que parfois, moi, je culpabilisais vachement d'être mal en me disant, mais c'est vraiment un petit problème de petite meuf. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la rue et dans la vie. Et ça, je trouve ça très pénible. Parce qu'en fait, c'est très difficile de relativiser ces problèmes quand tu es dedans. Donc, je trouve que chaque émotion est valide. Et valider, voilà, c'est chacun ressent ce qu'il peut avec son histoire personnelle. On a chacun des moments hyper difficiles dans nos vies, et si c'est la première tuile qui te tombe de toute ta vie sur la tronche, ça va être un moment hyper dur. Et si t'as déjà eu 50 000 moments très difficiles dans ta vie, bah ça te veut dire, bon, it's okay, ça va. Chacun a son ressenti, on est chacun le fruit de notre biographie. Moi, je trouve ça très pénible, et eh oh, ça va, faut y aller là.
Ouais, c'est bon, attends. T'es en bonne santé, ça va, on va pas non plus.
Non, mais chacun fait avec son histoire, avec ce qu'il est, et moi, je trouve ça très difficile de relativiser. Quand t'es très mal, je crois que pareil. Moi, j'aime pas les injonctions. Je crois que t'as noté. J'aime pas les injonctions, que ça soit Léo, là, faut se bouger, ou ça va. Tu sais, il y a pire dans la vie. Ouais, il y a toujours pire, ouais. Mais moi, au moment là où je le vis, c'est hyper dramatique pour moi, en fait. Et c'est chacun le fruit de ton histoire. Si tu as connu des deuils, des maladies, des trucs très difficiles dans ta vie, effectivement, il y a des choses qui sont une montagne pour les autres, qui le seront pas du tout pour toi. Mais il faut respecter ça. Moi, j'essaie de ne jamais juger les autres. Il faut respecter les douleurs de chacun et ce que ça veut dire pour chacun. La difficulté, le moment difficile à passer, c'est vraiment un truc. Là aussi, et parfois ça demande de la compassion, un tout petit peu d'empathie, un tout petit peu de compréhension. Mais moi, j'essaye quand j'ai envie de me dire, alors c'est bon, ça va, ta rupture, 14e rupture avec ton mec, là, ça. Et parfois, je me dis, alors attends, si pour elle, c'est un drame aujourd'hui, c'est que c'est un drame, et si elle n'arrive pas à quitter cette relation toxique, je ne juge pas, ça prend le temps pour chacun. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas non plus la grosse copine, méga paluche pendant 3 mois, je vais un peu te secouer, mais en même temps, non, mais pas méchamment. J'ai pas. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense qu'il faut dire les choses. Moi,
elle a vu, tu vois, le méchamment.
Non, non, mais je suis quelqu'un de très direct. Pas du tout de... Mais même avec mes amis. Donc moi, je crois, je dis les choses. Je dis maintenant, tu prends le temps qu'il faut. C'est un deuil ou c'est le deuil. Ou moi, je serai là pour toi, etc. Mais en fait, quels que soient les moments de la vie, moi, je pense parfois... Je pense que personne n'est sauvé de soi-même. Je pense que tout ce que tu peux dire à quelqu'un, si t'as besoin, je suis là. Et parfois, c'est tout ce que tu peux faire, parce que tu ne peux pas sauver quelqu'un de soi-même.
Oui, c'est ça. C'est
tu
à
ne
lui
peux
prendre
pas
des
lui faire faire un chemin. Ouais, moi, j'en parle beaucoup par rapport à ma mère. Moi, j'ai toujours maman, je crois qu'elle s'est sauvée elle-même, quelque part. Évidemment, elle a été entourée, etc. On a fait ce qu'on peut. Mais ce que je veux dire, il y a un moment où, ok, donc tu vas tendre la main, il va falloir que tu la grippes. Sinon, moi,
Si
pourrais...
Si elle la grippe pas, tu peux rien faire.
Moi, je pourrais plus rien faire pour toi. Donc, il va falloir que tu ailles agripper cette main. Et moi, ce qui me fascine dans la vie, c'est là où moi, je trouve la plus grande inégalité. C'est qu'est-ce qui va faire que tu vas trouver la force de choper une main et qui n'aura pas la force ? Je suis très obsédée par l'inégalité face à... qu'est-ce qui fait qu'on est plus résilient ou pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on se remet d'un choc dans la vie ou pas ? Et ça, pour moi, c'est une grande inégalité sociétale que je trouve très forte. Si moi, demain, je suis au chômage ou si j'ai pas... J'ai probablement un réseau qui va m'aider. Hein. J'ai probablement... J'ai pouvoir... On n'est pas égaux face aux tuiles de la vie.
Non,
c'est ça
sûr.
Que je veux dire.
C'est
et sûr. Ça, pour moi, c'est une énorme inégalité. C'est évidemment le fait que moi, par rapport au le fait d'être pareil, j'aime pas trop les cases. J'aime pas trop dire si t'es né du beau côté de la barrière, tu t'es. J'en ai rien à foutre de tes petits problèmes. Non, chacun a des grands malheurs. Moi, j'ai vu beaucoup de malheurs dans des quartiers hyper bourgeois, des drames, des malheurs. Chacun a les siens. Donc, j'aime pas trop les cases. J'aime pas trop si t'es né là. Moi, j'aime pas trop les assignations à résidence, comme dirait l'autre, mais quelle qu'elle soit, en fait. J'aime pas trop que ça soit quand t'es du bon côté de la barrière, t'es un bourgeois, donc t'es ça, ou t'habites du côté du périph', donc t'es ça. Je supporte pas ni l'un pour l'autre. J'ai rencontré des gens super de tous les côtés. J'ai rencontré des gens... Donc j'aime pas ça. J'aime pas le fait de mettre les gens dans des cases, en fait. Mais il y a une réalité qui est quand même qu'il y a une inégalité de départ qui fait que t'auras peut-être plus d'armes pour être plus résilient, pour te reconstruire, pour te remettre d'un mot. Et ça, c'est très obsessionnel chez moi. Sur le fait de... qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment, a la force de saisir la main ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne l'aura pas ? Et ça, c'est un truc sociétal par rapport... Mais ça implique plein de trucs. Ça implique l'éducation, ça implique la santé mentale, dont on ne parle jamais, la prévention. Ça implique plein de choses. Qu'est-ce qui fait ? Et pour moi, le vrai rôle, en fait... moi, je ne crois pas du tout au slogan de... tu vois ? Ruffin, quand il dit des trucs, je dis pas du tout que Ruffin dit toujours des bêtises, mais Ruffin, quand il titre son livre « Il est où le bonheur ?», moi, je crois pas du tout que la politique a vocation à s'occuper de mon bonheur. Merci, mais non. Ça, c'est un truc, chacun a sa définition, chacun trouve le sens. Par contre, il y a une volonté de créer un cadre, un décor, quelque chose où, si moi, je pars avec 3 bornes d'avance sur toi, parce que je suis née là, il va falloir que le politique, il change la donne. Il va falloir qu'il nous mette au même plot de départ, sinon, c'est pas possible. Et quand moi je me prends une barrière pendant la course,
c'est l'équité plutôt que l'égalité, c'est-à-dire qu'en fait
j'ai un truc avec l'équité, tout à fait, qui implique l'égalité.
C'est-à-dire que l'égalité, quand on dit par exemple tout le monde doit être égaux, mais si toi du coup t'es parti déjà en avance et qu'on te donne la même chose que quelqu'un qui est parti en retard, quelque part tu seras toujours en avance.
Oui.
Ce que tu dis, c'est plutôt l'équité de dire peut-être quelqu'un qui est parti en retard, est-ce que la société, est-ce que l'État, est-ce que
il y a la position de départ, mais il y a aussi le fait quand moi je me prends un plot sur le chemin. Je vais avoir probablement 1000 fois plus de ressources que quelqu'un d'autre. Ne serait-ce qu'un truc débile, savoir aller voir un thérapeute, avoir le courage d'aller voir un thérapeute, ne pas stigmatiser d'aller
déjà
voir un thérapeute.
Déjà parce que tu sais qu'un thérapeute existe.
Exactement.
Et que ça peut t'aider.
Savoir que ça peut t'aider, y avoir accès financièrement, etc. Qu'est-ce qui fait... Donc je suis assez obsédée par ça. Qu'est-ce qui fait que si je me prends l'autre plot... Donc en fait, c'est une espèce d'équité de départ, à la chance de départ. Mais en fait, sur l'existence, c'est... Et je sais pas comment on règle le problème, j'en sais rien, mais ça c'est un truc vachement obsessionnel pour moi. Pourquoi ma mère s'en est sortie et quelqu'un d'autre pas ? Parce que ça détruit des vies, ces maladies-là, ces addictions, etc. Ça c'est très obsessionnel chez moi. Je pense qu'il y a quand même la force de chacun, de ce que chacun est, mais il y a aussi des regards, il y a aussi des communautés, il y a aussi des accès. avoir accès, c'est sûr, savoir que ça existe. Et ça, c'est un truc... ouais, ça m'intéresse vachement, quoi. Tu vois, maman, ce qui m'a vachement impressionnée, c'est son humilité quand elle a tout perdu. Ma mère, elle a été alcoolique, je raconte ça, elle est abstinente depuis 17 ans. Le fait qu'elle ait fait ça... moi, j'ai vu quelqu'un qui était chef d'entreprise devenir réceptionniste et dire, bah, il faut y aller. Quand il faut remonter, il faut remonter. Et ça, personnellement, je ne sais même pas si je serais... Enfin, j'ai trouvé ça. Et je me dis, c'est incroyable parce qu'elle a une force que je ne voyais pas en elle, que je soupçonne. Et j'ai été très fascinée par ça en me disant, mais elle a quand même été très entourée, mais il y avait un truc en elle que j'ai découvert. Je ne sais pas comment t'expliquer. Quelque chose, on me disait... La vache, elle a quand même une force que je trouve hallucinante. Hallucinante, mais vraiment un truc... je me dis, putain, je l'ai connue avec ses employés, dans sa boîte. Elle déménage, elle part, elle quitte la France, elle va au Luxembourg. Elle devient réceptionniste, c'est le seul endroit où elle trouve un job. Et elle fait son truc, tu vois. Et ça, je trouvais que c'était quand même un truc... je suis persuadée qu'on a tous une force en nous aussi, en fait, qu'on soupçonne pas. Mais j'aime pas trop l'injonction, encore une fois, on en parlait à... sois fort, bats-toi, parce que parfois, les moments,
oui,
on te dit ça, c'est le moment où tu crois plus en rien.
Ouais.
Où t'es en totale perte de confiance en toi.
Et donc, au contraire, en fait, ça te creuse encore, parce que tu dis, je vais pas être capable. Et donc,
exactement.
Pense,
ouais. Donc, c'est quelque chose qu'elle a été chercher en elle, mais je suis persuadée qu'on l'a en soi, mais qu'est-ce qui fait qu'on y croit? Enfin, ça mêle, tu sais, ça mêle plein de choses. Ça mêle les destins, ça mêle les histoires de famille, ça mêle qui on est soi, ça mêle tellement de choses. Mais ouais, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et qui... Je trouve que dans la société, on ne parle pas beaucoup de ça et aussi de santé mentale aussi. Par exemple, je trouve que c'est un truc hyper stigmatisé, mais moi, je vois bien à quel point ça a sauvé des vies, en fait. Et parfois, je ne comprends pas qu'on n'ait pas... Tu vois, par exemple, je fais complètement une diversion, mais revenons... tu vois, le succès de En Thérapie sur Arte, ça te dit un truc incroyable, quand même. C'est-à-dire, c'est quand même un truc... C'est pas hyper sexy comme série.
Oui.
C'est quand même un mec, pendant 27 minutes. Et je me dis, c'est fascinant que ça intéresse... Enfin, ça dit un truc incroyable parce que finalement, on voit une série qui parle, qui voit en fait ce qu'est une séance de thérapie. Et en fait, je me dis, c'est fou. Ça dit quelque chose aussi que cette série est cartonnée. En fait, là-dessus, je me dis, ça, c'est quelque chose. En fait, on n'a pas l'habitude de voir un truc sur la santé mentale, sur le fait d'être comme ça avec un thérapeute. Enfin, bref, c'est complètement un autre sujet. Mais
finalement, je pense que ça a été révélé aussi par cette pandémie. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se sont dit, merde, alors comment dire, on accompagne les gens pour éviter qu'ils tombent malades sur donc la santé physique classique et finalement les conséquences que ça a mentale sur l'isolement, sur le moral des gens, etc. C'est aussi important.
Ouais,
et donc je pense que ça a préoccupé les gens de se dire mince, on interdit toute sortie, on prive de liberté et finalement on se dit mais
et
c'est
je
pour
pense
la santé.
C'est important. Ouais, il faut pas stigmatiser. Tu vois moi par exemple, j'essaie de parler de mes attaques de panique, de l'angoisse, etc. Parce que pas du tout pour parce que tu vois, quand t'entends, après la pandémie, il y a 25% des gens qui ont des troubles anxieux, je pense qu'il faut dire, ok, t'angoisses pas en plus de ça, t'es déjà angoissé avec tout ce qui se passe, n'aie pas une méta-angoisse qui est, oh là là, pourvu que les autres me jugent pas, parce que je tiens moins le choc pendant la pandémie, tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, non mais tout à fait.
Donc je me dis, attends, 25% c'est beaucoup, c'est énorme, t'es pas tout seul quoi.
Ouais.
Et donc en fait, pas de normaliser, c'est pas du tout ça, mais de se dire, tu peux en parler, ne te crée pas une méta-angoisse sur l'angoisse qui est, pourvu que les gens ne voient pas à quel point je suis mal. Ou pourvu que les gens... Moi, j'ai écrit... je me disais, c'est marrant, comme je culpabilisais d'être hyper mal au début de la pandémie, parce que finalement, j'étais toute seule dans un appartement. Pareil, toujours l'injonction. Enfin, t'as des gens qui vivent ça beaucoup plus mal que dans des situations matérielles beaucoup plus compliquées que toi. Mais le fait est que bah, je suis désolée, je fais ce que je peux, mais je suis super mal, j'ai hyper peur. Mmh. Et en fait, je me dis, faut absolument dire aux gens... Enfin, 25% c'est beaucoup. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Mais non, mais c'est sûr.
Et t'es pas tout seul, et donc il faut un tout petit peu se dire qu'il y a des passages. Et aussi, moi, j'ai remarqué dans ma vie, il y a des passages très anxieux et d'autres pas du tout. Donc en fait, je pense aussi qu'il faut pas du tout avoir peur quand t'as des moments de vie qui vont être beaucoup plus. Tu vas quitter ton job, tu vas créer une agence, ça va créer des anxiétés monstrueuses. Ça veut pas dire que ça sera tout le temps là. C'est un cycle de vie qui on crée. Ensuite, tu rentres dans une phase qui est plus tranquille. Moi, je crois beaucoup. Je pense qu'on voit beaucoup de courbes comme ça dans nos vies où tu vois des courbes qui partent d'un point à zéro puis qui vont à 100 et donc tu vois la vie d'une façon linéaire et si tu suis pas cette ligne linéaire, t'es foutu. En fait, je crois que quand tu vois la vie plutôt comme des cycles, en rond comme ça, ça enlève une pression énorme. Parce que la vie où tu pars de là, puis en fait tu montes, et puis en fait si tu te pètes la tronche au milieu, t'es nul, t'as tout raté, c'est horrible parce que c'est pas comme ça la vie en fait. La vie c'est des cycles. Puis en fait ça tourne comme ça, il y a des cycles où t'es très anxieux, des cycles où tu sens que c'est fluide. ces mouvements. Il y a des cycles où tu vas prendre aucune décision qui vont changer ta vie. Puis il y a des cycles où d'un coup, tu vas décider de changer de ville, changer de pays, changer de partenaire ou ne pas avoir de partenaire, ou changer de ce que tu as envie de changer dans ta vie, être plus toi. Et d'un coup, ça va remonter des angoisses. Et moi, j'ai toujours peur quand les angoisses reviennent. Je dis, oh là là, je retourne en arrière. Oh là là. Je dis, attends, c'est un nouveau cycle de vie. C'est normal, ça remonte des angoisses. C'est super important. Donc ça, je pense qu'il faut... Voilà, c'est pour ça que moi, je parle de tout ça. Je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais moi, en tout cas, je me dis toujours, j'aurais voulu... J'aime bien qu'on me rappelle que c'est pas horrible, que je suis pas... Je pense qu'on a tous besoin, d'une certaine façon, de sentir qu'on appartient, qu'on fait partie de quelque chose. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de haine, beaucoup de rage, beaucoup de tristesse qui viennent du fait de ne pas trouver sa place. Où qu'elle soit, pour qui que ce soit. Je pense que... Mais ça va d'être du mauvais côté du périph' à des gens autour de moi qui ne trouvent pas leur place, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de sérénité et beaucoup de quelque chose qui s'apaise en soi quand on a l'impression qu'on est au bon endroit, à la bonne place. Et ça ne veut pas du tout dire la même chose pour les autres, mais je crois qu'on a tous besoin d'appartenir à quelque chose, à un groupe, à un projet. Et je pense que c'est super important. Et donc, moi, je parle de tout ça pour rappeler que même si tu ressens ça, ou même si tu as ça, tu appartiens à la société, tu appartiens, it's okay. En fait, c'est normal d'être humain. Voilà, c'est ça que je veux dire.
C'est ça, mais c'est pas
juste être humain.
C'est sur l'exigence,
c'est normal.
Quoi.
Si tu veux être un robot, tu as un ordinateur en face de toi, mais moi, j'ai pas du tout envie de ça. C'est normal d'être humain. Et moi, je lutte tout le temps contre ça parce que parfois, j'ai l'impression que je n'accepte que les émotions positives chez moi. Mais en fait, les émotions négatives, ça fait partie aussi. C'est des tunings, quoi. C'est des trucs qui me permettent.
Puis c'est ce qui t'a alerté quelque part sur tiens, là, je dois changer de vie. Tiens, là, je dois partir. Là.
Mais c'est marrant, comme dans la vie, on n'aime pas trop les émotions négatives. On n'a pas envie d'avoir de la fièvre ou des courbatures après un vaccin.
Par exemple,
quoi.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est quelque chose où moi, je suis toujours dans une grosse. J'essaie beaucoup de travailler là-dessus.
Et
parce
finalement,
que
après, quand c'est fait, après, tu dis ah, c'était juste ça. Bah, c'est
exactement.
Cool.
Mais ça vaut pour tout. En fait, ça vaut pour tout. C'est ça la réalité. Mais je trouve que c'est un travail quotidien parce qu'on croit toujours que les émotions négatives, ça doit... Ah là là, c'est hyper mal, c'est hyper mauvais. Mais en fait, les émotions négatives, ça n'existe pas. Il y a être humain et puis il y a tout le lot qui va avec, quoi. Et pour ceux qui vivent sur un long fleuve tranquille, bravo, parce que moi, je n'ai jamais connu ça dans ma vie. D'ailleurs moi, je prends... c'est facile aujourd'hui de le dire, mais sur le moment, je trouve que c'est hyper difficile de le dire. Mais même les épreuves, etc., la maladie, les trucs hyper difficiles ou... Même les trucs que je raconte pas dans mon livre et tout, aujourd'hui, je prends parce que je pense que ça a forgé qui je suis. De toute façon, je pense qu'il faut prendre toute son histoire, sinon tu es en lutte permanente avec toi, de toute façon. Après, c'est un travail, mais...
Sauf que c'est un truc que tu apprends aussi en grandissant ou en vieillissant. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une enfance très protégée avec des parents voilà, parfaits, on a été très aimés, etc. Et finalement, ça met aussi un peu la pression quand on grandit parce qu'on se dit « Merde, mes parents, ils étaient au top, ils n'ont jamais douté, carrière dingue, trois enfants parfaits, bien élevés, tout ça. Moi, je me pose plein de questions, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je ne sais pas quel métier je veux faire, toute ma vie le même métier, je ne suis pas sûre. Enfin, » Du coup, on se dit « Merde, pourquoi j'y arrive pas ?» Et puis finalement, en grandissant, quand on en parler peut-être d'adulte à adulte avec sa mère ou en tout cas sur des conversations qui sont pas des conversations de mère à enfant mais plutôt de femme qui construit sa vie et qui a envie d'avoir un retour et finalement qu'on se rend compte que sa mère a dit mais tu crois quoi, mais moi j'ai eu peur là, j'ai dû faire ce choix là, là ça s'est pas passé, là on t'a protégé de ça mais ça s'est pas passé comme ça forcément. Et du coup tu dis ah ok, donc c'est cool, ça veut dire que c'est possible de te
douter. Bien sûr.
De...
Moi je dis pas du tout, moi j'ai eu une enfance compliquée etc, mais je parle pas du tout d'amour, de pas d'amour, en fait. Peut-être que ça dépend de ton enfant. Enfin, ça dépend. En fait, tu te rends compte à quel point tes parents sont aussi des êtres humains.
Mais
en fait,
ça.
Parfois,
mais
tu ne les vois que comme des parents.
Des gens, des êtres parfaits qui
sont tout gérés. Et parfois, la vie fait que tu vois que c'est des êtres humains, en fait. Et ensuite, après, c'est l'histoire de chacun. Chacun fait ce qu'il peut, mais c'est vrai que je pense que les humaniser assez vite, c'est important, en fait. Après, il y a la vie qui fait que t'es plus ou moins obligé. Après, c'est marrant parce que tu dis... C'est marrant parce que tu t'es mis une pression de la petite fille modèle, en fait.
C'est ça, mais oui.
De devoir...
Tout à fait. Je suis la fille aînée, en plus.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est marrant. Les pressions qu'on se met, quelle que soit son histoire, même si de loin, les gens pourraient dire « Bah attends, pourquoi tu te mets tout va bien, machin, etc. » Mais toi, dans ta tête, tu t'es créé un truc
mais c'est ça,
qui était
difficile après,
à gérer comme pression.
Et c'est là où c'est rigolo parce que juste t'en parles et c'est là où, effectivement, je m'étais mise une pression toute seule parce que c'est là où après, ta mère, elle te dit « Mais moi, sincèrement, c'est tout est OK, Charlotte. » C'est-à-dire que tu fais enfin moi je suis fière de toi, tu fais ce que tu veux, enfin quelque part elle me enfin voilà elle m'a
pas libérée.
Ouais, vachement.
C'est
ouais. Vachement. Ouais.
Bah, tu vois.
Ouais. Bon, après, il n'est pas toujours d'accord avec ce que je fais.
Ça tenait une conversation.
Mais c'est ça.
Toujours parler aussi, toujours avoir les conversations. Moi, je ne supporte pas les non-dits. Toujours dire les choses.
Alors après, voilà, pareil. Privilégié, c'est-à-dire que dans un contexte où avec ma mère c'est bienveillant et j'étais entourée d'une maman aimante, etc. Enfin voilà, je veux dire, on a aussi quand tu dis sur la résilience, j'ai aussi cette chance-là. C'est-à-dire que je pense que ça y fait beaucoup quand déjà t'as une enfance, même si ton enfance n'est pas parfaite ou quoi que ce soit. Déjà si t'es aimée, ça change tout déjà sur la confiance en soi,
bien
sur ce que tu veux faire, sur voilà.
Non, mais c'est capital.
Donc
c'est
capital. Voilà, je veux dire, c'est...
Parfois il y a des gens qui t'aiment mais qui t'aiment mal. C'est-à-dire, moi je veux pas que les enfants croient ou je sais pas. Moi, je parfois tu es aimé, mais les gens sont pris avec leurs propres douleurs, leurs propres choses, et ils t'aiment mal ou ils savent pas comment t'aimer. Je pense qu'il y a plein de choses aussi qui sont liées à ça. Mais par contre, c'est vrai.
Mais après, c'est rigolo parce que du coup, ça te met une pression. Mais en fait, t'as raison, hein, totalement toute seule. Hein. C'est-à-dire que voilà, tu te dis. C'est toute seule. J'étais très douée à l'école. Je me disais que c'était cool si j'avais une grande carrière hyper linéaire et que tout se passait bien et que je doutais jamais. Donc, j'osais pas douter.
Les pressions, je pense qu'on se les met tout le
temps. Mais voilà, c'est ça. En fait, c'est tout seul. Hein.
Ouais. Amicalement, familialement, en permanence et s'en détacher, c'est très compliqué.
Parce que du coup, c'est un travail sur soi. Et donc, c'est ce que tu disais au départ. C'est-à-dire que c'est le truc le plus difficile. Ouais, voilà, c'est ça.
C'est marrant, quand j'ai dit travail sur soi, j'évite un. Enfin, je veux pas que ça ait l'air. Moi, je ne crois pas du tout à une société individualiste. Je crois à une société de l'individuation. C'est Cynthia Fleury qui fait la différence entre connaître le jeu, pour savoir comment il peut contribuer au nous. Donc ça, c'est le processus d'individuation. Pour moi, le livre Les Irremplaçables a été un livre capital dans mon existence. Pas funky family à lire, parce que c'est Cynthia Fleury, c'est un peu hardcore.
Ok.
Un peu, c'est la philosophie, et Cynthia Fleury, elle n'est pas là. Enfin, c'est... Le livre est accessible, mais je dirais que c'est...
Ça remue quoi, c'est ça ?
Non, c'est pas... ça remue pas. Il n'est pas... C'est la philosophie assez pure et dure, où elle t'explique sa théorie sur les remplaçabilités. Mais moi, ce qui m'a fascinée dans son livre, c'est l'individuation. C'est le processus d'individuation qui n'a rien à voir avec l'individualisme, qui est savoir ce qu'est le jeu. Pas pour s'occuper de travail sur soi, moi, mais ce jeu, comment il va contribuer au nous. Et la seule façon de ne pas se noyer dans le nous, participer à la société, et donc quelque part d'être engagé dans la société, ou d'appartenir à la société, c'est de sentir ce jeu. Et c'est ça l'individuation. C'est pas le jeu individualiste qui pense qu'à soi. C'est le jeu qui se dit, voilà.
Je participe.
Exactement. Je participe. Quand j'avais fait Palomar en Allemagne, c'était un truc il y a, je sais pas, 2009, où j'avais été dans un programme pendant 2 mois à Palomar où j'avais vécu avec 26 nationalités. Enfin bref, passons. Et on arrive. Donc je me retrouve dans ce truc-là. Moi, j'avais été virée de tous mes jobs. Je trouvais pas de job. D'un coup, je suis choisie pour ce programme. Je dis mais incroyable. J'arrive et là, ils nous disent, ils nous mettent des uniformes et ils disent il n'y a plus de jeu, mon idée et ton idée. Là, j'ai là, je ne suis pas complètement d'accord. Ils disent mais non, il faut la jouer collective. J'ai dit attends, mais moi, je la joue complètement collective, mais comment je connais ma place dans le groupe si je ne sais pas ce que j'apporte au groupe Donc, je suis désolée, il y aura encore un il y aura encore un jeu. Ça ne veut pas dire que je ne jouerai pas du tout collectif. Je suis hyper contente d'être là avec le groupe, mais il faut qu'on puisse aussi se respecter dans le groupe. Moi, j'ai toujours peur des groupes où tu te noies. Mais ça peut être, ça peut dire nous pour parler de ta famille tout le temps. On fait ça, nous avons fait ça, on fait ça. Moi, je crois qu'il faut être très respectueux de son individualité. Hein. Dans la famille, dans un couple ou en famille, quand tu viens à dire tout le temps on. Et j'en parle aussi dans le livre, dans le deuxième. Il y a un moment où je dis beaucoup on part en week-end, on. Mmh. C'est pas du tout moi. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de. Je crois qu'il faut faire attention dans sa vie à ne jamais se noyer dans le groupe, quel que soit le groupe. Parce qu'un jour, je crois qu'il faut toujours avoir un peu conscience qu'il y a un truc, je ne veux pas être trop dépendante des autres pour mon bonheur, je ne veux pas être trop dépendante d'un événement extérieur à moi, je ne veux pas être trop dépendante de l'autre pour me dire je suis heureuse parce qu'il est là, je suis heureuse parce qu'ils sont là, je suis heureuse parce qu'il s'est passé ça dans ma vie. Je veux un tout petit peu être, tu vois, un peu sur mes pieds en me disant si ça, on me le prend demain, ça va. Ou s'il n'est plus là dans ma vie demain, ça va, je suis alignée. Tu vois ce que je veux dire? Ou si... J'ai pas d'enfant, mais je me dis, si ces 2 enfants-là quittent la maison demain, je veux pouvoir avoir mes trucs à moi. Tu vois ce que je veux dire? Mes pieds à moi. Je crois qu'il faut toujours faire attention au « on »,« nous », et de pas s'oublier dans le groupe, quel que soit le groupe social. Que ce soit, et pas par égoïsme, mais pour savoir, attends, je sais comment je me tiens sur mes 2 pieds, je sais ce qui est à moi, et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de moi. Pas pour me refermer, mais pour savoir que si demain ça part, si demain cet événement-là que je considère hyper important dans ma vie n'arrive pas, ça va. ça va.
Je repars sur un autre cycle, ou en tout cas, je continue.
C'est pas ça, je repars pas sur un autre cycle, c'est ça va. Ma vie ou le bonheur de ma vie ne peut pas dépendre que de ça, d'un événement qui est extérieur à moi, de ce job, de cet événement, de cette réussite-là, d'accomplir cette injonction sociale à cet âge-là. Sinon, c'est trop dangereux, je trouve. Et en fait, ça dit, moi, quand je vois que le bonheur ou le sens de la vie passe par un truc très, très précis, je me dis, qu'est-ce que ça dit sur moi ? Pourquoi il faut que j'aie fait ça à 30 ans ? Sinon, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. Je m'interroge toujours sur cette signification-là en me disant, attends, why ? Qu'est-ce que ça dit ? Pourquoi j'ai besoin de ça ? Est-ce que c'est réel ? D'où vient ça ? Et pour moi, mais je dis ça, chacun dans sa vie a des trucs où tu dis, j'en ai besoin pour mon bonheur, j'ai besoin de ça, etc. Donc chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Il faut absolument respecter ça. Pour moi, c'est plus un truc de liberté. Je crois que ma liberté passe par ne pas être trop dépendante de choses sur lesquelles je n'ai pas complètement... Enfin,
qui dépendent pas de moi. Tu peux pas agir, quoi. Ouais, c'est ça.
Qui dépendent... Pas agir, mais qui dépendent pas de moi ou qui sont pas complètement à l'intérieur de moi. Et pour moi, c'est une idée de liberté et aussi d'être un peu complète. Tu vois, il y a le film dans... Un film que j'adore, de Jerry Maguire. You Got Me At Hello. Tu sais, Tom Cruise et... Et elle dit une phrase qui a été un truc... Non, mais tu l'as pas vu ?
Non,
mais tu vas tellement aimer. Attends, Jerry Maguire, tu l'as pas vu ?
Non.
Ah non,
mais
attends, si t'as
non,
aimé
Maguire, c'est vrai que j'ai très peu vu des films de Tom Cruise, en fait.
Mais attends, Tom Cruise, avant qu'il pète les pédales avec
mais oui,
la Scientologie,
mais ouais,
c'était quand même un super acteur, en réalité. Hein. Il faut que tu regardes Rain Man, il faut que... C'était quand même un mec... Enfin, bref. Donc, il y a un moment où elle lui dit... Cette phrase fait le tour... c'est une phrase que tu vois sur les réseaux sociaux, Instagram, machin. Renée Zellweger dit à Tom Cruise, tu me complètes. You complete me. Mais ça, c'est une phrase hyper dangereuse.
Oui, parce que du coup, le jour, il part.
Exactement. Donc, en fait, cette phrase, tellement beau, machin. Mais 15 ans après, tu dis, attends, c'est... Ben non, en fait. Toi et moi, on s'additionne et on fait des trucs déments ensemble. Mais tu me complètes pas, en fait. Parce que ça va. Moi, je suis une personne entière. It's OK. Donc, j'ai toujours peur des... En fait, pour revenir à ça, j'ai toujours peur du « on » ou du groupe qui oublie qui tu es et qui fait que si cette personne s'en va, si cette personne-là... Ton enfant arrive à passer des vacances sans toi, sans t'appeler trois fois par semaine, tu sais pas complètement. Je pense que c'est. Tu vois, je vois ce genre de truc où je me dis. Enfin, pour moi, c'est un truc de liberté. Mais ça dépend de chacun. Mais je pense que c'est important de savoir qui l'on est sans les autres ou de savoir qu'on apporte. Tu es déjà tout à fait complète, quoi. Que tu sois seule ou pas, que tu aies des enfants ou pas, que tu aies un boulot ou pas, que tu vives, tu es tout à fait complète. Donc en fait, c'est une phrase avec le recul. C'est comme avec le recul, Sex and the City. Bah tu vois, je trouve que Kerry, c'est un personnage un peu toxique. Je pense qu'on est tous un peu plus Miranda aujourd'hui, tu vois. Kerry, elle est dans un truc hyper de codépendance, quoi, avec les hommes.
Non, c'est vrai.
Là, c'est pas pour faire ma féminisme, mais pourquoi pas. Mais je veux dire, il y a plein de trucs avec le recul. Enfin bref, peu importe, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais, mais du coup, voilà, je pense que c'est important. Mais pour moi, c'est une histoire de liberté, qui est quand même une de mes valeurs, je dirais, avec le fait de créer... et d'être utile. Je dirais être utile, créer et la liberté sont vraiment les trois gros moteurs, quoi. Voilà. Avec, en essayant dans tout ça, de ne pas être limité par la peur, les angoisses, le passé, les petites névroses personnelles.
Mais du coup, ouais, c'est bien. Parce que si tu as être utile, créer et la liberté, d'ailleurs, tu sais que tu as les doutes et les angoisses autour, mais tu restes focus sur créer, être utile, la liberté.
Ouais, merci à ma thérapeute qui me rappelle ça.
Voilà, mais je note ça. Moi, je pense que ce sera la conclusion.
Oh là, je crois que vous faites un petit peu envahir par la peur, c'est vrai. Ouais, non, mais il y a le partage. En fait, il y a le partage, créer, inspirer.
Créer, inspirer. Ouais. Mais créer, être utile, c'est le partage. Enfin, tu vois, être utile, le partage, inspirer, ok.
C'est quoi l'autre, la liberté ?
La liberté.
La liberté. Voilà, c'est très
important. C'est une belle conclusion.
Tu m'as pas posé. Alors là, je suis désolée, tu m'as pas posé la question de ce qui m'inspirait et tout. Je suis pas contente. Je veux le faire, si tous les invités l'ont fait.
Oui, c'est vrai.
Moi, si je ne l'ai pas, je suis un peu triste.
Alors, Axel, du coup, avec tout ce qu'on a dit, on a parlé d'Albert Camus, on a parlé de plein de monde hyper inspirant. Mais du coup, quelle serait la personnalité qui t'inspire le plus ?
Alors, tu me poses cette question de façon très spontanée. Ce n'est pas moi qui t'oublie. Non, mais je voulais que tu me poses cette question parce que je trouve que c'est une question très difficile, parce que je n'ai jamais un nom qui me vient en tête. Donc, tu sais, en off, enfin, toi et moi, avant d'enregistrer ce podcast, on a parlé du livre, de la personnalité, de la musique ou du film. Pour moi, c'est toujours une question qui est hyper compliquée parce que j'ai mille trucs qui m'inspirent. On revient toujours à la généraliste curieuse, à la curiosité, quoi.
Et donc, dans ta vie où ça arrive aussi.
Oui, mais par exemple, la musique. Moi, j'ai la musique en intraveineuse. Donc, par exemple, j'ai plutôt des chansons Moi, par exemple, si tu fais un trajet en voiture avec moi, je suis la personne qui peut mettre 1000 fois la même chanson si je suis dans une phase sur cette chanson. Donc, c'est très pénible. Donc, si par exemple, tu me demandais ça à un moment où je suis à fond...
Henri Dess, tu sais.
Non, arrête. Arrête.
J'ai reçu plein.
J'écoute plein de trucs, mais tu vois, si je suis sur une phase où je suis à bloc sur... tu vois, là, qu'est-ce que j'ai téléchargé récemment
Attention, parce que là, alors là, nous, on a des playlists de juillet, alors attention si...
Si je suis dans une phase, tu vois, j'ai avoir hyper envie d'écouter... Bon, moi, je suis très hip-hop, mais disons, je vais t'écouter...
Alors, Orelsan, peut-être.
Orelsan, Basique, tu vois, plein de trucs comme ça. Si je suis dans une grande phase, je peux t'écouter la chanson 1000 fois de suite. Donc, d'un coup, je vais te dire, je suis hyper inspirée par cette personne en ce moment. Donc, chez moi, ça change tout le temps. Par exemple, sur le film, là, en ce moment, j'ai une grosse phase, Nolan. Donc en fait Nolan, donc là depuis une semaine, j'avais jamais vu les Batman de Nolan. Je suis totalement fascinée. Je pense que The Dark Knight est un chef-d'œuvre.
C'est vrai.
Donc en fait, si je commence à Nolan, donc moi j'avais adoré Memento, donc j'ai revu Memento. D'un coup en fait je me dis oh là là, je vais me faire toute une phase Nolan. Et donc pour moi me faire une phase Nolan, ça veut dire que je vais me faire tous les Batman, que je vais regarder Dunkerque, que je vais revoir Inception, que je vais revoir Memento que sur YouTube. Je vais aller regarder les vidéos d'analyse de ces films. Donc par exemple, je pensais que le Prestige, j'avais pas du tout aimé, j'ai été totalement fascinée par le Prestige.
C'est drôle parce qu'en fait tu dis que t'es une généraliste, mais quelque part là tu vas t'intéresser à un sujet, là tu vas faire l'experte à aller jusqu'à fouiller.
En fait, je suis une nerd intempestive, c'est-à-dire nerd sur un sujet, ensuite je change de sujet. Donc sur YouTube, je vais aller regarder toutes les analyses sur The Prestige, sur la vision de Nolan dans Inception, et puis ça va me passer. Dans une semaine, je vais passer complètement à autre chose.
Tu peux y passer un moment hein, parce qu'avec le nombre.
Non, mais
de...
tout ça pour te dire que moi, j'ai espèce de phase où il y a des gens où, par exemple, moi, les gens qui m'inspirent le plus, les artistes, beaucoup, énormément, tous ceux, en fait, qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes et en font quelque chose, tous ceux qui font du personnel de l'universel, c'est souvent les artistes qui font ça, tous ceux qui arrivent, qui ont le courage d'être eux-mêmes, absolument eux-mêmes, ça me fascine totalement. Et j'aime bien les gens qui se dépassent. Donc, par exemple, j'adore le sport, j'adore les athlètes. Donc, par exemple, un truc qui n'a aucun rapport, mais par exemple, quand François Gabart a fait son tour du monde, je me souviens complètement comme une dingue. J'ai le mal de mer, je ne suis jamais sur un voilier, mais j'étais complètement fascinée de le voir arriver. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait réalisé un de ses rêves.
Ouais, sur le dépassement.
Et surtout, voir quelqu'un réaliser un de ses rêves, et d'un coup, je ne vois pas seulement la voile, la mer, etc. Je vois quelqu'un de hyper engagé dans son rêve. Et donc, ça m'inspire, par exemple. Mais ça peut être... tu vois, d'un coup, je vais regarder un documentaire sur Nina Simone et je vais être complètement fascinée par son histoire, sa carrière complètement contrariée de pianiste classique parce qu'à cause de la discrimination. D'un coup, je vais me passionner pour ça. Donc, en fait, je suis inspirée par 1000 choses, mais je suis inspirée par les gens qui osent être eux, qui partagent ce qu'ils sont, qui en font une histoire et qui font du personnel de l'universel. Ça, c'est quelque chose. Et... sur le dépassement de soi. Généralement, c'est... Mais bon, fil rouge, il y a un peu Albert Camus aussi. Mais voilà, donc moi... Mais je reviens quand même. Les artistes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les athlètes, bizarrement. Mais les artistes, moi, il y a des chansons qui ont changé ma vie. Quand je vais très mal, je sais tout de suite, je vais aller vers Eric Satie. Nanana, je vais écouter Eric Satie pendant 2 heures. Puis ensuite, je vais en avoir marre. Je vais aller sur Rage Against the Machine. C'est fou comme l'art, en fait. La création...
Mais c'est ça, en plus, qui est hyper puissant sur les artistes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, mais c'est tout à fait ce que tu dis, c'est qu'eux, ils vont créer quelque chose qui leur parle, en tout cas, qui est du personnel, qui est sur leur histoire, souvent des histoires d'ailleurs torturées, ou en tout cas, voilà. Et quelque part, c'est universel, ça parle à tout le monde. Il y a des gens qui se reconnaissent et qui sont inspirés. Et, mais ça, c'est...
Quand tu fais du personnel de l'universel, c'est le truc le plus puissant au monde. C'est parce que tu touches pas seulement à la tête, tu touches au cœur.
C'est ça, mais le talent, il est là.
Et surtout, ce que je trouve incroyable, c'est que ça enlève toutes les barrières. Il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de culture. On va tous pleurer pour la même chose.
Mais c'est vrai.
Et donc pour moi, il y a que l'art et le sport aussi qui fait ça.
Et moi, j'ai, enfin, un des moments, dans ma vie, j'ai eu plein de moments émouvants évidemment, mais un des moments les plus émouvants, je me rappellerai toujours. J'ai un petit garçon qui a 10 ans aujourd'hui, et quand il était tout petit, je pense qu'il avait 3-4 ans, voilà, on lui met des musiques, etc., peu importe, et on aime beaucoup Queen. Et du coup, je lui mets une musique de Queen, et puis je le vois écouter un peu, enfin, en tout cas découvrir cette musique. Il trouve ça, je vois que ça l'attentionne, et du coup, je mets sur la tablette, je mets le clip avec Freddie Mercury. Mais là, il découvrait Freddie Mercury, de le voir sur scène.
La force d'être soi.
Et alors, je me suis dit de voir mon petit garçon comme ça, de 3-4 ans, être fasciné finalement par la première fois qu'on voit Freddie Mercury chanter sur scène, parce que c'est vrai que moi je suis toujours autant fascinée, c'est vraiment quelqu'un, voilà, j'admire beaucoup l'artiste, mais bon, c'est vu, revu, etc., et j'ai beau l'admirer toujours, mais là, de voir la première fois de quelqu'un, J'avais jamais vu ça. Et de voir, pourtant, voilà, ça pourrait être démodé. Enfin, on pourrait se dire, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais il voit Freddie Mercury sur scène et je le vois tellement ému, mon petit bout là, de 3-4 ans.
Surtout,
c'est
ça dit
hyper
quelque chose,
fort.
Ça me fait penser aussi à David Bowie qui d'un coup arrive en étant androgyne.
Oui, bah,
ça,
ouais, ouais.
Et tout le monde le trouve fascinant, etc. Et en fait, je trouve ça fascinant parce que dans nos vies, au quotidien, on a toujours peur d'être différent, de sortir du lot. Et ce qu'on admire le plus, hein, sont les gens qui assument leur singularité et leur différence. Et je trouve ça fascinant qu'on regarde ça avec des yeux incroyables, mais que dans nos vies, on a l'impression qu'on a toujours l'injonction à la normalité, ou ne pas sortir du lot. Donc, je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'être soi, cultiver sa singularité, cultiver sa bizarrerie, si on en est... Enfin, tout ce que l'on croit... Moi, j'ai découvert que tout ce dont j'ai honte, ou tout ce qui me faisait honte chez moi, était probablement mes forces. Tout ce dont j'avais honte sur mes vulnérabilités était ce qui touchait le plus les gens. Donc, en fait, je crois toujours que ce qu'on le cache le plus et ce qu'on devrait partager le plus, en fait, parce que ça crée une connexion avec l'autre qui est très forte. C'est, encore une fois, on revient à l'humanité de chacun.
Et parce que l'autre aussi, peut-être, oui. Parce qu'en fait, l'autre sent aussi, se dit, bon, ok, la personne, elle est humaine, quoi. Elle est vraie, elle est là, elle est avec moi.
Ça nous ramène à la fonction, on oublie l'âge, la culture, la nationalité. Ça renvoie à la vérité qu'on est tous dans le même bateau, sur une même planète, et qu'on vit tous une condition humaine, une aventure humaine, et tout ce qui nous permet de vivre ça, que ça soit l'art, que ça soit partager son histoire, que ça soit accepter d'être authentique, accepter d'être vulnérable, tendre une main, la saisir quand nous, on en a besoin, tout ce qui permet de vivre cette expérience de l'humanité avec l'autre, c'est pour moi ce qu'on a de plus précieux, en fait. C'est ce qu'il faut cultiver, voilà, ce que je crois.
Tout à fait.
Voilà, Charlotte.
Donc, t'as vu comme ça, je t'ai posé... la dernière question.
Exactement. On clôturera là-dessus.
Ok, ça marche. Bah oui, je sais pas. Moi, je pense que... Sinon, merci beaucoup,
merci
Axel,
à
pour
toi.
Ce moment.
Merci à toi, Charlotte. Merci beaucoup.
Fin de la première saison. On se retrouve en septembre pour la saison 2 de l'Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Et si vous décidiez enfin d'être la meilleure version de vous-même? Faites de vos moments précieux les plus beaux événements. N'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement. Laissez-vous tenter par cet été invincible au fond de vous. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.